monsieur qu'il veut s'étrangler. Il dit, celui-là, il veut s'étrangler. Mais c'est moi, t'as fait en haut sur le coup. Tout cela, bien sûr, n'a rien à voir avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait aussi deux choses que j'ai oublié de citer la fois passée. Dhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Certains font la faute aussi, laquelle, quand ils disent Allahu Akbar, ils lèvent les mains au niveau de l'épaule, masha'Allah, ou bien au niveau des lobes de l'oreille. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Voilà la faute. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ensuite, ils descendent les mains. Ils descendent les mains, ils les tendent. Ils tendent les mains, ensuite ils les reprennent et mettent la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Ça, c'est une faute. Naam. Quand tu lèves les mains, tu dis Allahu Akbar, mes mains sont devant mes oreilles, par exemple. J'ai dit Allahu Akbar, maintenant je descends mes mains, je les descends directement sur ma poitrine. Je les descends pas en bas, devant mes hanches, ensuite je les relève pour les mettre sur la poitrine. Ça, c'est une faute. Je descends des oreilles vers la poitrine directement. Je dis Allahu Akbar et je descends mes mains directement de l'oreille vers la poitrine et non pas vers les hanches. Ensuite, je les relève vers la poitrine. C'est une faute. Rappelez-vous bien de cette faute. La deuxième, certains, quand ils disent Allahu Akbar, ils lèvent les mains sur devant les lobes des oreilles, masha'Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ensuite, ils descendent les mains, mais ils ne vont pas les descendre tendus vers les hanches. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent les coudes comme ça, hein, les mains pliées au niveau du coude, elles sont pliées, il n'a pas encore tendu les bras, mais il les fait revenir en arrière. Il les fait revenir en arrière avec le coude, c'est-à-dire des oreilles, il fait descendre ses mains. Ensuite, il fait revenir ses coudes en arrière, comme ça, vite. Il fait revenir ses coudes en arrière et il met ses mains sur sa poitrine. Ça veut dire que, comme s'il y avait, par exemple, quelqu'un derrière lui, par exemple, il peut le frapper avec le coude. Pourquoi? Parce que des oreilles, directement, il descend ses mains. Il frappe comme ça avec des deux coudes à l'arrière. Ensuite, il les met sur la poitrine. J'espère que vous avez compris comprendre cela, il faut voir la personne, bien sûr. Et j'essaie de rapprocher, parce que ce sont des choses que je vois avec mes yeux beaucoup de gens faire. Taïe. Ensuite, on avait dit que il fallait regarder à l'endroit où on allait faire la prosternation. On ne regarde pas vers le ciel et on ne regarde pas devant nous en face, mais on regarde à l'endroit où on fait la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens arrêtent de lever leurs yeux vers le ciel dans la prière, autrement leur vue ne leur reviendra plus. Dans un autre hadith, où leur vue sera enlevée. Bukhari Muslim. Que les gens arrêtent de lever leurs yeux vers le ciel, qu'ils arrêtent dans la prière, autrement leur vue leur sera enlevée. C'est-à-dire, si quelqu'un fait la prière, ensuite on voit, ou là on nous apprend qu'il est devenu aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a transgressé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit, attention, ne lève pas les yeux quand tu es dans la salat. Ta vue risque de partir. C'est grave à ce point, Naam. C'est grave à ce point. Ta vue risque de partir et devenir aveugle. Donc, tu ne dois regarder qu'à l'endroit où tu fais la prosternation. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit une fois, éloigner de lui toute chose qui gêne, on doit l'éloigner. Nous aussi, avant de faire la salat, on doit se préparer. Nous, quand on va aller à une fête ou à un mariage ou là, on se prépare, surtout les femmes. Les femmes se préparent 15 jours avant la fête. Est-ce que maintenant je vais rentrer chez Allah subhanahu wa ta'ala? Non, je vais lui parler, je vais lui faire des invocations, je vais rentrer dans la chose qu'il aime le plus, c'est la salat. Donc il faut que je me prépare, faire le wudu, bien m'habiller, mettre le mix si j'en ai, le siwak, et me préparer aussi dans mon environnement, mettre les enfants de côté, fermer la porte, éteindre la télé, ne pas choisir la chambre où il y a des photos, et comme ça. Non, il faut que je donne de l'importance à ce rendez-vous qui est la salat. Le salat pour le musulman, c'est le plus grand rendez-vous qu'il a. Naam. Qui que vaut le rendez-vous avec le président de la République devant le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Allahu Akbar, il met son visage en face de ton visage, tu commences à lui parler. Donc, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha ahaqqu an yutazayyana lah aw an yuzayyana lah. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui revient de primauté que pour lui on doit s'embellir. C'est pas pour une autre personne. C'est pour Allah ta'ala, il est le premier à avoir les droits qu'on s'embellisse pour lui, Azza wa Jal. Aujourd'hui, j'avais ensuite dit aussi autre chose, j'avais dit que aussi rentre dans cela de se préparer, c'est de manger avant de faire la prière. C'est-à-dire, s'il y a un repas, un dîner par exemple, et la prière qui sont venus en même temps, si j'ai faim, je dois commencer par quoi ? Je dois commencer par le manger. Je ne commence par la prière que sauf si je n'ai pas faim. Non. Mais si je sais que si je vais rentrer dans la prière, je vais penser au manger, à ce qu'il y a sur la table, et je commence à me parler du manger au lieu de parler de la salade, celui-là, même s'il se fait la prière, elle ne lui compte pas. Non. Va manger, comme je l'ai dit une fois, les ulama ont dit, tu remplis ton ventre pour vider ton cœur. Non. Remplis ton ventre pour vider ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, quand tu rentres dans la salade, tu invoques Allah azza wa jal au lieu d'invoquer les spaghettis, le canard. Au lieu d'invoquer la shorba, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et la même chose, il est interdit à quelqu'un de faire... Là, j'ai dit, s'il y a le repas, le manger et la salade, on commence par quoi ? On commence par la salade. Sauf si on n'a pas faim. On a dit, sauf l'imam. Je l'ai dit une fois, le hadith est dans le Bukhari. Sauf l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec des gens en train de manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime beaucoup l'épaule du mouton. Il a pris un couteau, il a commencé à couper. J'ai dit couteau entre parenthèses, là. Ceux qui disent tu es obligé de manger avec la main. Il a pris un couteau, il a commencé à couper. Il a entendu l'iqama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qamat salat. Il a jeté le couteau, posé la viande et est parti. Est parti pour faire la prière. Ibn Hajj al-Asqalani a dit, donc la permission de manger et de ne pas faire la salat est pour tout le monde, sauf pour l'imam. L'imam, il y a des gens qui attendent, s'il ne va pas à la mosquée, il risque de faire une grande fitna. Donc lui, il doit patienter, aller faire la prière, inshallah ta'ala, après manger. La deuxième chose qui ne doit pas nous occuper, c'est quoi ? C'est Tamrla ou la Bint Hashim. Écris-moi un si vous m'entendez. Je ne sais pas si je suis connecté ou je ne suis pas. Alhamdulillah. Naam. Astaghfirullah wa atubu ilayh. La deuxième des choses qui est très importante, c'est quoi ? C'est de ne... Naam. C'est peut-être plus important que de manger. C'est de ne pas rentrer dans la salat quand on a envie d'aller aux toilettes. Naam. Quand on a envie d'aller aux toilettes, ou bien pour les petits besoins, ou bien les grands besoins. Non? On ne peut pas commencer par la prière. Car la prière, Allah Ta'ala veut que tu sois à l'aise dans la prière, pour que tu ressentes le khushu et l'humilité, et que tu invoques Allah. Voilà le but de la prière. Ce n'est pas si tu rentres dans la salat en ayant besoin d'aller aux toilettes, ça va être très difficile pour toi. Premièrement. Deuxièmement, tu vas te faire mal. Celui qui se retient, qui ne peut pas se retenir, il va se faire mal. Deuxièmement ou troisièmement, il peut ne pas se retenir et faire sur lui. En plein salat, il peut uriner. La râle, je n'ai pas pu me retenir. C'est pour ça que dans la salat, s'il est par exemple dans la salat, et ils ont le besoin urgent d'uriner ou de déféquer, il est obligé de sortir de la salat. Il dit salam alaikum, il va aux toilettes. Il fait ses besoins et il refait le wudu et il commence la salat de nouveau. Même s'il est dans la mosquée, il quitte. Il quitte, salam alaikum, il sort des rangs et il va aller chez lui ou là, je ne sais pas où, il fait ses besoins, ensuite il fait la prière. Naam. Car, pourquoi ? C'est comme je viens de le dire, pour humilier, pour sentir l'humiliation et avoir le khushu. Naam. C'est très difficile de faire la salat tout en pensant à quand est-ce qu'il termine, quand est-ce que je vais à la toilette, quand est-ce que c'est cela, et si je me retiens, je tiens mon ventre, ensuite je commence à entendre des gaz, ensuite ceci, cela. Tout ça ne marche pas avec la salade. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, le nouveau, les invocations de l'ouverture. Les invocations de l'ouverture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait Allahu Akbar, il ne commençait pas directement par dire A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mais, bien au contraire, il faisait des doigts avant de commencer. Ça s'appelle les doigts de l'ouverture, l'ouverture de la salat. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est de la grande sagesse de ne pas lui dire, commencer à lui parler comme ça directement. Mais tu fais, yani, tautéa, ce qu'on appelle tautéa, tu fais une petite introduction, ensuite tu commences à faire la salat. Donc, le prophète al-islam faisait d'abord certaines invocations, ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Ensuite, il commençait, il disait au double shtarajim et il terminait. C'est quoi donc ces invocations? Ces invocations, il y en a beaucoup. Il y a des invocations qui sont longues, des invocations qui sont courtes. Moi, Inch'Allah Ta'ala, je vous ai choisi trois invocations, trois sortes d'invocations. Ces invocations, je vous demande de les écrire, de les noter. Elles sont très simples et courtes. J'ai choisi les plus courtes. Elles sont simples et courtes. Comme ça, vous pouvez les apprendre et de temps en temps, vous changez. Par exemple, le Dhuhr, tu dis cette invocation, demain tu dis le deuxième, après demain tu dis le troisième, Salat al-Isha tu dis une sorte, Salat al-Sobh tu dis une deuxième, et comme ça, tu changes pour casser la routine et pour avoir les récompenses de vivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici il a dit, je vous donne les invocations que je vous ai choisies, les invocations que je vous ai choisies, bi'idna al-Ajil, ce sont, Inch'Allah ta'ala, ce sont les plus courtes. J'ai fait exprès de choisir les plus courtes. Je vous ai choisi la première, la première invocation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu Akbar. Attendez une seconde, je l'ai en arabe, je l'ai écrit quelque part en arabe. Je vais chercher où il est écrit, c'est tout. Voilà la première, Inch'Allah ta'ala. Il disait سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب ان شاء الله تعالى voilà ce que ça donne en français, ce que ça donne en français. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. Ça, le prophète عليه الصلاة والسلام le disait après Allahu Akbar. Donc, ceux qui veulent noter, ils notent. Ceux qui connaissent l'arabe, ils écrivent en arabe. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudrait avoir l'arabe sur votre ordinateur. Ceux qui ne l'ont pas, ils écrivent en français phonétique. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak smuka wa ta'ala jidduka wa la ilaha ghayruka. Il n'est pas long, ça va vous paraître long, mais comparé à d'autres, il est très simple. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Vous le notez inshallah ta'ala. Je vous attends un peu le temps que vous le notiez inshallah ta'ala. Celui qui veut, vous pouvez seulement le copier d'ici et le coller quelque part, le coller sur un fichier, et après vous l'avez toujours devant vous, vous pouvez l'écrire avec un stylo pour ne pas perdre de temps. Vous le prenez d'ici, vous le collez inshallah ta'ala pour ne pas perdre de temps. Non, mais c'est trop tard. Ça y est. Le deuxième, je vous ai choisi un deuxième aussi, qui est aussi simple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. Regardez, il disait d'abord Allahu Akbar, hein, il a dit Allahu Akbar pour rentrer dans la salat, ensuite il dit Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallah bukratan wa asila. Ça, je crois qu'il est, il est plus court, il est plus court inshallah ta'ala que l'autre dua. Non, il est plus court inshallah ta'ala que l'autre dua. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je sais que il est facile, inshallah ta'ala. Il faut juste s'habituer. Naam. En français, ça donne Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi Kathira, wa subhanallahi Bukratan wa Asila. C'est écrit en face de vous, vous pouvez le copier, le coller. Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi Kathira, wa subhanallahi Bukratan wa Asila. Ça, on le dit après quoi? Après le takbir. Donc, je me mets en face de la qibla, je lève mes mains au niveau des épaules ou bien des oreilles, je dis Allahu Akbar. J'attends un peu, je dis Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukratin wa asila. Naam. Et le troisième que je vous ai choisi, il est très simple, bi'idhn ta'ala, il est très simple et facile, inshallah ta'ala, facile à dire pour ceux qui trouvent des difficultés. C'est quelque chose de très simple, bi'idhn azza wa jal. Qu'est-ce qu'on dit? Après avoir dit Allahu Akbar, il dit Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Celui-là est très simple. Allahu Akbar, ensuite Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hada inshallah ta'ala, pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent retenir celui-là, il est très simple. Non, il est très simple. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakin fih. Toujours, après avoir dit Allahu Akbar, on parle de, après avoir dit Allahu Akbar, avant de commencer à lire le Coran. Je répète, ou bien on dit le premier, c'est-à-dire je dis Allahu Akbar, ensuite je dis Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jduka. ولا إله غيرك وبين جدي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة وبين جدي الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه. Mais je ne peux pas mélanger entre les trois. Comme certaines personnes, tu ne peux pas mélanger entre les trois. Tu choisis, à chaque fois tu dis un. Aujourd'hui tu dis par exemple celui-là, le soir tu dis l'autre, demain tu dis l'autre, et ainsi de suite. Mais tu dis pas les deux ou là les trois, tu les mélanges à la fois. Naam. Bien sûr, il y a beaucoup de doigts, je vous ai choisi les trois les plus simples, bi'idhnillahi azza wa jalla. Maintenant, la récitation du Coran. Ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, kana yista'idu billahi ta'ala fayaqul a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وكان أحيانا يزيد في قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah le glorifié en disant أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. C'est dommage, j'ai oublié de vous écrire ça, ni en arabe ni en français. J'ai oublié d'écrire ça. نعم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. C'est-à-dire je cherche protection auprès d'Allah contre le diable de sa tentation, يعني contre sa tentation, من همزه ونفخه, de ses insufflations, et ونفثه, et de sa poésie blâmable. نعم. Parfois il ajoutait, lorsqu'il disait A'udhu billah min shaytanir rajim, parfois il ajoutait A'udhu billah, il ajoutait Sami' A'udhu billah Sami' al-alim min shaytanir rajim. Non, des fois il disait A'udhu billah Sami' al-alim min shaytanir rajim. Mais ce qui est étonnant, c'est que Cheikh al-Albani rahimallah a dit, je n'ai pas trouvé un hadith, un seul, un seul, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait seulement A'udhu billahi min shaitan rajim. Beaucoup de gens, quand ils commencent la prière, ils disent quoi directement? Allahu Akbar. Par exemple, ils disent Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Karim, Tayyib, Mubarakin. Et ensuite, ils disent A'udhu billahi min shaitan rajim, Bismillah ar-Rahim. Sah? A'udhu billahi min shaitan rajim. Cheikh Al-Albani a dit, je n'ai jamais trouvé un hadith sahih, où le prophète alayhi salam a dit seulement A'udhu billahi min shaitan rajim. Il a dit, mais tous les hadiths, A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi. Les trois. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi, wa nafkhihi, wa nafsihi. Subhanallah al-Azim. Il dit, je ne connais aucun hadith où on peut dire seulement A'udhu billahi min shaitan rajim comme ça. Donc ceux qui peuvent, maintenant j'ai pas le temps de l'écrire et j'ai oublié d'écrire moi. Vous apprenez les trois mots hado. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi. Hamzihi, c'est les tentations. Tentations du shaitan. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi. Non, on commence par hamzihi. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi, wa nafkhihi. Tayyib. C'est écrit devant moi une seconde. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi, wa nafkhihi. Salafia, Osmo, corrige, nafkhihi. Bon, celui-là, A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi, wa nafkhihi, wa nafkhihi. Jazakallahu khairan, ta'am Allah. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi, wa nafkhihi, wa nafkhihi. Ta'am Allah, jazakallahu khair. Écris en rouge si tu peux. Écris cette phrase en rouge. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi. Hamzihi, c'est, j'avais dit tout à l'heure, c'est des tentations. Nafkhihi, c'est les insufflations du shaitan. C'est aussi l'arrogance et le kibr. Et min nafkhihi, c'est sa poésie blâmable. Ta'am Allah, je tape en écrit en rouge. A'udhu billahi min shaitan rajim, min hamzihi, wa nafkhihi, wa nafkhihi. Bon, je vais le copier, moi je vais l'écrire en rouge. Une seconde dans ma tête. Ah, Allah, je vois pas, si tu as affiché quelque chose, je vois rien, Allah. Même moi, je viens d'écrire quelque chose, ça sort pas sur l'écran, je ne sais pas si je suis en décalage ou là, comment ça se passe. Non, je sais pas si je suis en décalage ou là, qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Je dois attendre un peu pour être sûr que vous êtes en train de m'entendre. On le fera avec l'on rouge. Jazakallahu khairan. Pourtant, je vois rien, Allah. Je vois pas que c'est écrit en rouge. Allah, vraiment. Quand il y a un décalage. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est saut. Non, qui est saut, porte. Ah, qui est saut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ensuite, il disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix basse. Il disait pas à voix haute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il disait à voix basse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cheikh Al-Albani, d'après lui, il n'y a aucun hadith où le prophète alayhi salam a dit au moins une fois dans sa vie Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Mais un de ses élèves, Sulman Mashhour, Hafidahullah, Mashhour, a dit que, Mashhour Salman a dit que, il y a un hadith plus ou moins bon où il est permis de temps en temps de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim à voix haute. Comme c'est le Madhab Shafi'i. Madhab Shafi'i, vous voyez tout le monde quand il fait salat, il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ensuite, il commence à lire Alhamdulillah. Nous, on dit que la sunna, il commence direct par Alhamdulillah. Bismillah, ça se dit, et ça se dit à voix basse. Mais de temps en temps, il est permis de la faire. De temps en temps, une fois dans la vie ou là, une fois dans ces mots-là, on peut dire à voix haute pour joindre entre les hadiths si on dit que ça se disait qu'il y avait un hadith qui est assez bon où le prophète l'a dit de voix haute. Non. Mais la plupart du temps, on l'a fait à voix basse. Non. Ensuite, il a dit, وَكَانَ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَ ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَ وَيَقْطَعُهَا آيَةً آيَةً. Ensuite, il récitait la surah al-Fatiha et la divisait, récitant un verset à la fois. Il disait Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse, autant au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ensuite, il fait une pause, il s'arrête un peu. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il fait une pause, il arrête un peu. Ar-Rahmanir Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il fait une pause. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Il fait une pause. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Et il s'arrête. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et comme ça, jusqu'à la fin. Et comme ça, jusqu'à la fin. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ceux qui lisent vite, yani, n'ont pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce hadith que je viens de dire, qui prouve, qui est sahih, et qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait et faisait une pause entre chaque verset et verset. Cheikh Al-Albani a dit ce hadith a plusieurs routes et il est un fondement, c'est une base et un fondement à ce sujet. Et plusieurs des anciens imams et lecteurs du Coran préfèrent stopper après chaque verset. Après chaque verset, ils stoppent. Même si certains versets étaient liés l'un à l'autre. Il y a deux versets, des fois, ils sont liés l'un à l'autre. Mais puisque le verset est terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête et stoppe. Même s'il ne lisait pas la suite qui est liée au précédent. Subhanallah al-Azim. Cheikh Al-Albani a dit, je dis, yani la façon de lire et de s'arrêter à chaque verset, je dis, c'est une sunna qui a été négligée par la majorité des lecteurs du Coran d'aujourd'hui. Ne parlons pas des autres. Non. Les grands lecteurs du Coran, ceux qui disent nous sommes des savants dans le Coran, et négligent cette sunna. Ils lisent comme ça, attachent les versets et lisent les versets. Alors qu'en est-il de ceux qui ne sont pas savants dans le Coran? C'est pour ça la sunna, c'est de t'arrêter. A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. C'est ça. Bismillahir Rahmanir Rahim. Doucement. Ensuite, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. C'est ça. Ar-Rahmanir Rahim. C'est ça. Maliki Yawmiddin. Tu vois. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Tu t'arrêtes. Pourquoi? Premièrement, c'est de la sunna. Deuxièmement, ce qui est plus important, vous allez le voir tout à l'heure, d'ailleurs ça va arriver. Non, je vais le lire déjà maintenant, c'est mieux. Non, pourquoi? Parce que quand tu commences à lire Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de lui parler, il est en train de te parler. Donc on lit le hadith, il va venir dans quelques secondes, inshallah. Tu parles à Allah, et lui il te parle. À chaque fois que tu dis une chose, il te dit une chose. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Allah azza wa jal, le béni, le glorifié a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. C'est Allah ta'ala qui dit cela. J'ai divisé la prière. Quelle prière? Il parle de la Fatiha. Sourate al-Fatiha. Il l'a appelé prière. Pourquoi il l'a appelé prière? Parce que c'est la base de la prière. La base. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que n'a pas de prière celui qui n'y a pas récité au moins Fatiha. Naam. Celui qui n'a pas récité au moins Fatiha, il n'a pas de prière. Naam. Dans un autre hadith, il a dit celui qui exécute une prière dans laquelle il ne récite pas l'ouverture du livre, le Fatiha, alors celle-ci est déficiente, incomplète. Allah. Donc, Allah Ta'ala a appelé sourate al-Fatiha, il a appelé la prière. Yani, c'est comme si la prière n'est rien d'autre chose que sourate al-Fatiha. Tellement elle est importante. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-Hajju Arafa. Al-Hajju, c'est quoi? C'est Arafa. Moi, je vous pose une question. Est-ce que le Hajj, c'est seulement Arafa? le hajj, on tourne pas autour de la Kaaba, on fait pas Safa ou le Marwa, on va pas à Mina, on va pas. Le hajj, c'est beaucoup de choses. Et pourquoi Ali Salam a dit le hajj ou Arafa? Pour te montrer que s'il n'y a pas Arafa, tu n'as pas de hajj. Non. Si tu ne montes pas sur Arafa, enfin tu ne montes pas, c'est pas sur, le montagne, sur la montagne. Tu ne te mets pas debout. Au moment où il faut être debout sur Arafa, tu n'as pas de hajj. Car le hajj ou Arafa, ici la même chose. Allah Ta'ala a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. En deux moitiés. Comment cela? Il a dit, بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. J'ai divisé en deux moitiés. Une moitié est pour moi et l'autre moitié est pour mon serviteur et pour mon serviteur ce qu'il aura demandé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. Récitez. Quand le serviteur dit, c'est-à-dire quand toi tu es en train de lire le Coran, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Allah Azza wa Jal te répond. Allah Azza wa Jal te répond. Il répond. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Subhanallah. Ensuite, quand toi tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit Athna Aliya Abdi, mon serviteur a fait mon éloge. Naam. Ensuite, quand tu dis Maliki Yawmiddin, quand tu dis Maliki Yawmiddin, maître du jour et de la rétribution, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire? Majjadani Abdi, mon serviteur m'a glorifié. Ensuite, quand tu dis Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, quand tu dis cela, إياك نعبد وإياك نستعين, الله تعالى يدي هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم. Quand tu dis إياك نعبد وإياك نستعين, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons. الله تعالى dira ceci est entre moi et mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. Ensuite, quand tu dis اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, الله تعالى ديغا فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. Ensuite, quand tu termines, tu dis guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. الله تعالى ديغا tout cela est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Donc vous avez remarqué que quand tu lis surat al-Fatiha, tu es en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire des choses. Il est en train de dire des choses. Allah l'adhim. Il dit mon serviteur m'a loué, mon serviteur a fait mon éloge, mon serviteur m'a glorifié. Ça c'est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur est là ce qu'il demande. Et comme ça. Donc, maintenant si tu lis vite, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, tu n'as pas laissé يعني الله سبحانه وتعالى دو دير سي شوز بون الله عز وجل va les dire, je sais pas s'il va les dire, peut-être qu'il va pas les dire parce que pourquoi tu as lu avec une façon يعني disons irrespectueuse. نعم, quelqu'un qui n'a pas respecté, qui n'a pas de pudique, quelqu'un la yastahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu lises doucement pour que Allah ta'ala dise mon serviteur m'a loué, mon serviteur m'a fait mon éloge, mon serviteur m'a glorifié. Est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu penses que si tu lis comme ça, tu dis par exemple, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malikoum Dinya Kanabou Dakin Stein, comme ça. Est-ce que Allah Ta'ala, si tu es une éloge pour lui, est-ce que tu la glorifies? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui a dit comme ça a glorifié quelqu'un. Si je rentre chez une grande personnalité, je lui dis. Comme ça, très vite. T'es gentil, t'es mashallah, t'es jolazab. Il va me dire, sortez-moi cette personne, j'ai même pas compris ce qu'il a dit. T'es gentil, t'es mashallah, t'es généreux, t'es gentil. Il va dire, non, c'est pas comme ça. Si on veut louer quelqu'un, on lui dit, vous êtes gentil, mashallah, vous êtes ceci, mashallah, comme ça, doucement, vous êtes comme ça, je loue ses mérites. Mais si je dis comme ça très vite, ça se peut qu'il dise, celui-là est en train de m'insulter, ou là, celui-là, il est en train de, il m'a pas respecté. Non. Donc, là, Azza wa Jal, il faut avoir honte de lui et parler avec humilité et parler doucement sans aller vite. Bi-iznillahi azzawajal. Autre chose qui est importante, certains gens, enfin même certains ulama, disent que, car il y a une grande divergence, est-ce que Bismillahi Rahman Rahim, est-ce que c'est un verset de source Fatiha ou est-ce pas un verset? D'abord, Bismillahi Rahman Rahim se trouve, c'est un verset avant chaque sourate. Avant chaque sourate. Vous savez, hein? Chaque sourate comporte Bismillahi Rahman Rahim et on commence. Sauf sourate quoi? Sauf sourate Tawbah. Sourate Tawbah ne commence pas par Bismillahi Rahman Rahim. Non, vous savez, il y a deux raisons pour cela. Non, il y a deux raisons pour lesquelles sourate Tawbah ne commence pas par Bismillahi Rahman Rahim. Et Bismillahi Rahman Rahim se trouve dans sourate Naml à l'intérieur. Innahu min Sulaymana wa innahu Bismillahi Rahman Rahim. Maintenant reste, est-ce que Bismillahi Rahman Rahim est un verset à l'intérieur de l'Fatiha ou ce n'est pas un verset? Est-ce que je peux dire directement Allahu Akbar, A'udhu billahi minash shaitani rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dis pas Bismillahi Rahman Rahim. Le plus vrai, le plus juste, c'est que Bismillahi Rahman Rahim, c'est un verset, l'un des sept versets de sourate al-Fatiha. Ceux qui ont dit ce n'est pas un verset, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est-à-dire ce n'est pas un verset de Fatiha, se sont basés sur le hadith que je viens de dire, où il est dit que quand le serviteur dit louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah Ta'ala lui dit, mon serviteur m'a loué, etc. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ici, le serviteur a commencé par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas dit Bismillah Rahman Rahim. Et ceux qui ont dit que Bismillah Rahman Rahim, ça fait partie de l'Fatiha, Inch'Allah Ta'ala, c'est la vie le plus juste. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith. Il y a un hadith sahih. C'est le numéro 729. 729 dans Sahih al-Jama' du Cheikh al-Albani. Que dit ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ida qara'tum alhamdulillah, si vous lisez sourate alhamdulillah rabbil alamin, faqra'u, lisez bismillahir rahmanir rahim, lisez bismillahir rahmanir rahim, innaha ummul quran, c'est la mère du Coran, wa ummul kitab, la mère du livre, wa sab' al-matani, sab' al-matani, c'est, yani, le sourate al-Fatiha, vous remarquez, elle a sept ayats qui se répètent, matani, tous liés à Allah, yani, qui sont en train de faire les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets. Non. Ensuite, il a dit, voilà la fin du hadith, le prophète alayhi sallam a dit, wa bismillahi rahman rahim, ihda ayatiha. Et bismillahi rahman rahim est l'un de ces versets. Donc, avec un hadith qui me dit comme ça, il me dit, iqra'u bismillahi rahman rahim, et à la fin il me dit, et bismillahi rahman rahim est un des sept versets, un des versets de l'Fatiha. Si je vais dire que le bismillahi rahman n'est pas un verset, c'est que vraiment, yani, c'est pas normal. Quant à Cheikh Ibn Uthaymeen, bien sûr, qu'il est excusé. Pourquoi? Premièrement, c'est un grand alim. Deuxièmement, il se peut qu'il n'ait pas lu ce hadith. Là, il se peut que ce hadith pour lui, ou bien il ne l'a pas lu, ou bien il dit c'est un hadith ba'if pour moi. C'est ce qu'il dit. Pour moi, c'est un hadith ba'if. Allahu a'lam, quelle est la chose qui ne l'a pas poussé à prendre ce hadith? Et ce hadith, c'est le numéro 729 dans le Sahih al-Jama' de Cheikh al-Albani, qui dit que Bismillah Rahman Rahim, non seulement il faut la lire, il a dit Iqra'u Bismillah Rahman Rahim, et il a dit c'est un des versets de sourate al-Fatiha. On revient à notre cours, Inch'Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, Allah n'a révélé dans la Torah ou l'Évangile quelque chose de semblable à la mère du Coran, أم القرآن, c'est-à-dire le Fatiha, qui sont les sept répétés et la grande récitation Al-Qur'an Al-Azim qui m'a été accordé. Naam. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam à celui qui il ne priait pas correctement. Il y avait quelqu'un qui priait mal. Trois fois, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, va répéter ta salat. Il lui a dit, celui qui ne priait pas, il lui a dit de la réciter dans sa prière. Il lui a dit, tu récites, il faut lire Ummul Kitab. Et il a dit à celui qui ne pouvait pas la retenir par cœur, quelqu'un qui ne peut pas retenir par cœur, Al-Fatiha, ou là quelqu'un qui vient juste de se convertir. Il dit, je ne peux pas lire Al-Fatiha. Qu'est-ce qu'il doit lire? Il a dit qu'il dise Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Je répète, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pour celui qui ne peut pas apprendre le Fatiha. Il se peut que quelqu'un ne connaisse vraiment pas l'arabe et il lui est impossible d'apprendre le Fatiha. Il se suffit à ses invocations. Il se suffit à ses invocations. Et il a dit, dans un autre hadith aussi, il a dit, pour celui qui ne peut pas prier correctement avec, et il n'a pas le Fatiha, il a dit, فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنَ فَقْرَ بِهِ. Si tu as du Coran avec toi, lis le Coran, c'est-à-dire lis le Fatiha au moins, ou illa, si tu n'en as pas, فَحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلُهُ. Si tu sais quelque chose du Coran, récite-le, autrement qu'est-ce que tu fais? Loue Allah en disant Alhamdulillah, Allahu Akbar, et la ilaha illallah. C'est plus simple, c'est plus simple que le premier. Pour celui qui ne connaît pas le Coran, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, écoute, premièrement, essaye d'apprendre le Fatiha. Mais si tu ne peux pas, commence par Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. S'il dit, ça aussi c'est difficile, je ne peux pas. On lui dit, alors commence par le plus simple. Qu'est-ce que tu dis? Il dit Alhamdulillah, Wallahu Akbar, wa la ilaha illallah. Seulement ces trois. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et il fait le recours. Subhanallah, c'est très simple. Yani. L'islam yani, a facilité. Personne ne peut dire j'ai des excuses, je ne peux pas. Car tout le monde peut dire ces trois mots. Tout le monde peut dire ces trois mots. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, et il s'incline. Naam. Ensuite, Cheikh Lahmo a dit l'obligation. Pardon. Une seconde, je vais sortir quelque chose d'ici. Non. C'est d'abord. Le Cheikh Lahmo a dit l'abrogation de la récitation derrière l'imam dans les prières à voix haute. À voix haute. L'abrogation de la récitation derrière l'imam dans les prières à voix haute. Il a dit, وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ كَانَ أَجَازَ قَدْ كَانَ أَجَازَ لِلْمُؤْتَمِّينَ. C'est-à-dire ceux qui sont derrière ceux qui sont derrière l'imam, ceux qui sont derrière l'imam. وَقَدْ كَانَ أَجَازَ لِلْمُؤْتَمِّينَ أَنْ يَقْرَأُ بِهَا وَرَأَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَةِ الْجَارِيَةِ حَيْثُ كَانَ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةِ فَلَمَّا فَارِغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هَذًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بَعْدَهَا رواه البخاري. Donc, dans un premier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis aux gens qu'ils lisent derrière lui. Lui, il lisait le Coran en voix haute, et eux, ils lisaient derrière lui Al-Fatiha, doucement, à voix basse. Il avait permis ça dans un premier lieu. Il a dit ici, il priait, une fois il priait Salat al-Fajr, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la récitation lui devint difficile. Quand il eut fini sa salat, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, c'est-à-dire il a dit aux gens, peut-être que vous récitez le Coran derrière votre imam? Ils répondirent, oui, en nous dépêchant. Oui, on est en train de lire derrière toi, mais vite, ô messager d'Allah. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas ainsi. Ne lisez pas le Coran derrière moi quand je lis moi à voix haute. Ne lisez pas le Coran derrière moi quand je lis à voix haute. Sauf si l'un de vous récite l'ouverture du Coran. Sauf si l'un de vous récite le Fatiha. Parce qu'il n'y a pas de prière valable pour celui qui ne récite pas le Fatiha. Donc, dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis aux gens qu'ils lisent derrière lui à condition qu'ils ne lisent que le Fatiha. Ils ne lisent pas autre chose. La deuxième sourate, ils ne doivent pas la lire. Ils lisent seulement le Fatiha. Par la suite, il leur a interdit, il a interdit à ses compagnons de réciter dans les prières à voix haute. On ne lit ni le Fatiha ni autre chose. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti d'une prière dans laquelle il récitait à voix haute la prière de Subh. Il a dit: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ Est-ce que l'un d'entre vous a-t-il récité avec moi tout à l'heure? فقال رجل نعم أنا رسول الله. Un homme a dit: oui, moi, au messager d'Allah. Moi, j'ai lu derrière toi quand tu lisais. فقال صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع. Le prophète عليه السلام a dit: ah, je vois. C'est pourquoi je me disais dans la salat, qui est-ce qui est en train de me disputer ma salat? Qui est en train derrière moi me disputer ma salat? C'est-à-dire, je m'entendais moi-même et j'entendais quelqu'un lire derrière moi. Je me disais, qui est celui qui est en train de me brouiller ma salat? قال أبو هريرة فانتهى الناس من القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه a dit, après cet événement, quand le prophète Hassan a dit, ah, je vois maintenant pourquoi je me dis que quelqu'un m'embrouille la salat, il a dit, ensuite les gens s'arrêtèrent. Les gens s'arrêtèrent de réciter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il récitait à voix haute, après avoir entendu cela de lui. Mais ils continuèrent de réciter en eux-mêmes silencieusement quand l'imam ne récitait pas à haute voix. C'est-à-dire, ils ont continué à lire derrière l'imam quand il lisait par exemple salat al-dhuhr ou salat al-asr ou la dernière rak'a du maghrib, ou bien les deux dernières rak'at du Isha. Là, les compagnons ont terminé, pardon, ne se sont pas arrêtés de lire. Ils lisent comme ça, dans leur cœur, comme l'imam est en train de lire. Là, mais, dans les salats où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait à voix haute, à partir de cet événement, ils n'ont plus lu à voix haute. Ils se sont tus. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait, ils se taisaient. Ne lisaient ni le Fatiha, ni rien. Et le Fatiha, il l'a livré auparavant, avant que ne vienne son abrogation, avant que Allah Ta'ala n'abroge cette salat. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué que le silence pendant la récitation de l'imam fait partie de la complétude dans le suivi de l'imam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوا. Subhanallah al-Azim, c'est très clair. Le prophète a dit, l'imam est là pour être suivi. Naam, imam, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la mosquée? Pourquoi il n'est pas chez lui à la maison? Qu'est-ce qu'il fait dans la mosquée? Il est là pour être suivi. Naam, il est là, il est devant nous pour qu'on le voit et on l'entende et on fasse comme lui et on le suive. Il est là pour être suivi. Il a dit, Quand l'imam dit le takbir, dites le takbir. Et quand il récite, il lit, soyez silencieux. Et quand il lit, soyez silencieux. Rawi Ibn Abi Shayba, Abu Daoud, Muslim et les autres, c'est un hadith sahih, bien sûr. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, il a dit, man kana lahu imamun, فقراءة الإمام له قراءة. سبحان الله العظيم. Quiconque a eu ou là a un imam, a un imam. La récitation de l'imam est alors une récitation pour lui. La récitation de l'imam est alors une récitation pour lui. Baraqutni ibn Majah, Abi Shayba et Ahmed ibn Tout ça sont des hadiths sahih. Allah l'adhim. La récitation de l'imam est une récitation pour lui. C'est la même chose. Quand l'imam récite, c'est comme si toi, tu récitais. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit ? Naam. Il n'aimait pas aussi qu'on levait, yani la voix quand il était en train de lire sallallahu alayhi wa sallam. J'ai donné les hadiths de cela, qu'il n'aimait pas sallallahu alayhi wa sallam qu'on levait la voix quand il faisait la prière. Naam, je cherche quelque chose ici. Naam. Beaucoup de ulama de l'Arabie Saoudite surtout. Vous pouvez dire peut-être tous les grands ulama, d'après ce que je sache, on dit que quand l'imam est en train de lire, ou bien encore pire, s'il n'est pas en train de lire, ils ont dit tu dois lire le Fatiha, tu dois lire. C'est-à-dire même quand l'imam lit à voix haute, toi tu es obligé de lire le Fatiha. Tu la lis à voix basse, même si tu lis à voix haute. Presque, si je ne me trompe pas, tous les ulamas de l'Arabie Saoudite disent cela. Cheikh Al-Albani Rahim a dit non, cette chose a été abrogée. Maintenant, c'était au début, c'était permis. Ensuite, le prophète a dit, quiconque a un imam, sa récitation, celle de l'imam, est pour lui une récitation. Ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Et vous lisez les adillas de ceci et cela et vous choisissez l'avis le plus juste qui vous conviendra inshallah ta'ala d'après les dalils. Moi j'ai choisi cet avis et c'est avec cet avis que je marche et que je dis aux gens lorsqu'ils me demandent à la mosquée, on me dit tu ne nous as pas laissé le temps de lire la Fatiha, etc. Je leur dis parce que dans mon cœur je n'atteste pas que vous devez lire une Fatiha. Dans mon cœur je me dis c'est moi seul qui dois lire le Fatiha. Vous devez écouter, c'est tout. Sauf quand je lis à voix basse, vous la lisez. C'est aussi l'avis de qui? C'est aussi l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre, le Jumu' al-Fatawa, il a consacré 3 ou 4 ou 5 pages. Spécialement pour prouver que le Fatiha, ça ne se lit pas derrière un imam. Quand il est en train de lire à voix haute. Naam. 5 ou 6 pages. Dans le Mujmu' al-Fatawa, pour prouver que Salat al-Fatiha ne se lit pas quand on est en train de faire la prière derrière quelqu'un qui lit à voix haute. Bien sûr, je redis encore une fois, s'il lit à voix basse, je suis obligé de lire le Fatiha. Quand l'imam lit à voix basse, je suis obligé de lire le Fatiha. Mais nous, on est en train de parler quand il lit à voix haute. Quand il lit à voix haute, Cheikh Islam a dit qu'il a consacré 5 ou 4 ou 5 ou 6 pages pour prouver qu'on ne lisait pas derrière le imam qui lit à voix haute. Ensuite, il y a autre chose. J'ai entendu une fois dans une cassette une monadara. Je ne sais pas comment on dit une monadara en français. Ils ont à peu près un débat, hein, quand deux personnes s'asseyent dans un endroit et chacun donne ses dalils. Par exemple, il dit, je vais donner des dalils que cette chose, par exemple, est haram. L'autre, il lui dit, je vais donner des dalils que cette chose est halal, elle n'est pas haram. Ils font une monavara, chacun va donner ses dalils, disons, ça s'appelle un débat. J'ai entendu une cassette où quelqu'un de l'Inde, un savant de l'Inde, a fait un débat avec Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. En ce qui concerne, est-ce qu'on lit le Fatiha derrière l'imam quand il y a voix haute ou là on ne la lit pas? Le savant de l'Inde a donné ses délits qu'il fallait la lire. Al-Albani a donné ici des livres qu'on ne devait pas la lire et que c'était abrogé. Je me souviens, d'entre autres, il lui a posé Cheikh Al-Albani, il lui a posé des questions qui ont laissé l'autre, ils l'ont laissé vraiment yani, bouche bée, hein, il n'a pas trouvé la réponse. Il lui a dit d'accord, supposons que lorsqu'il lit à voix haute, hein, nous aussi, on doit lire le Coran, on doit lire le Fatiha. Alors dis-moi où est sa place. Quand est-ce qu'on doit la lire? Quand est-ce qu'on doit la lire? Si tu dis, je la lis quand lui il est en train de la lire, alors dans ce cas, je ne vois pas pourquoi lui il est en train de lire. Pourquoi lui il lit à voix haute? Pourquoi il ne lit pas dans son cœur, il laisse, je lis dans mon cœur. Pourquoi il lit à voix haute? S'il lit à voix haute, c'est sûrement pour que je l'entende. Comme a dit Allah Ta'ala, فَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maintenant, s'il lit, lui à voix haute et moi à voix haute, on va s'embrouiller. Donc, il faut que les deux envoient, on va lire à voix basse. Et c'est impossible qu'on lise à voix basse, surtout l'imam. Il est dans la rak'a où il faut lire à voix haute. Et si tu me dis que, quand il termine le Fatiha, il dit Amin, imam, il s'arrête un peu pour me donner le temps de lire. C'est comme ça que font les imams. La plupart, ils font comme ça. Surtout Madhab Shafi'i. Pourquoi? Il s'arrête après. Voilà, Dalin, Amin, il s'arrête. Il te laisse une ou deux minutes le temps que tu lises le Fatiha. Cheikh Al-Albani a dit, celui qui fait ceci a fait deux fautes. La première, d'avoir lu avec l'imam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de te taire et de suivre l'imam, de l'écouter seulement. Et il t'a dit que sa récitation est pour toi une récitation. Et la deuxième, il a dit, il a fait une bid'a. C'est quoi la bid'a? Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est tu et a donné l'occasion aux autres de lire derrière lui. Parce qu'il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se taisait, attendait les gens derrière lui qui lisaient quelque chose. Jamais. Quand il terminait le Fatiha, les gens disaient Amin, il prenait un peu juste le temps de prendre le souffle et lisait une sourate. Il ne donnait pas les deux minutes là pour que les gens lisent derrière lui. Donc, et bien sûr, l'autre, notre savant de l'Inde, bien sûr, n'a rien trouvé à parler, bien sûr. Et comme je le disais, il est resté comme ça sans réponse. Al-Mohim, autre chose qui est importante, qui est un délit aussi, malgré les délits que Cheikh Al-Albani a cité, et aussi d'autres délits, quels sont-ils par exemple? Lorsque, regardez, c'est dommage, j'aurais dû écrire l'ayah, j'ai oublié d'écrire ici. Lorsque Allah Ta'ala a dit dans le Coran, je ne sais pas si je suis connecté. Je ne suis pas connecté. Ah, Ben Tashmi. Taïb. Puisque je suis connecté, Alhamdulillah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en parlant de Moussa alayhi salam, hein, Moussa a dit dans le Coran, Moussa alayhi salam, il a dit, Rabbana, écoutez bien ce que je vais dire. Moussa alayhi salam a dit dans le Coran, Rabbana, إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الله عز وجل répondu, قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سبحان الله العظيم. Regardez qu'est-ce qu'on dit. Ça, c'est Sourate Yunus, verset 89. Sourate Yunus, verset 89. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Moussa a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et à ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Ô notre Seigneur, Yani tu leur as donné. Pourquoi tu leur as donné toutes ces choses? Pour qu'avec ces choses, ils égarent. Ils égarent les gens de ton sentier. Et dans une autre récitation, ils s'égarent eux-mêmes. Ô notre Seigneur, anéantis leur bien et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas. Afin qu'ils ne croient pas, yani qu'ils meurent comme des kofars. Jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Subhanallah al-Azim. Ô Allah, anéantis leur bien et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas et qu'ils meurent. Hagda, qu'ils meurent. Afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Ça, c'est l'un des délits qu'il est permis de faire des doigts contre quelqu'un qui te fait mal. Quelqu'un qui te fait mal, tu peux faire des doigts contre lui. La preuve, Moussa, regardez ce qu'il a fait. Les doigts contre Pharaon étaient notables. Et Allah Ta'ala a dit, « La yuhibbu al-jahru, la yuhibbu Allahu al-jahra bi-su'i min qawl, illa man zolim. » Allah Ta'ala a dit, « J'aime pas que quand quelqu'un fait un doigt contre un autre, sauf s'il a été lésé, sauf si on lui a fait du tort. Et vous connaissez tous que Sa'd ibn Abi Waqqas, quand quelqu'un lui a fait du tort, l'a lésé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait trois doigts contre lui. Il a fait trois doigts contre lui. Vous connaissez l'histoire. Il a dit, Ya Allah, atel umura, Ya Allah, allonge sa vie, Ya Allah, wa atel faqra, et allonge sa pauvreté, et il a dit, et Ya Allah remplit-le de fitan, yani les fitan des femmes. Donc on peut faire un doua, des doua contre quelqu'un qui nous a fait tort. Non mais c'est pas ça le dars. Le dars ici, qui est-ce qui disait ces doua, qui est-ce qui faisait ces doua? C'est Moussa alayhi salam. C'est Moussa. Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Ô notre Seigneur, pour qu'il s'égare et égare les gens de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, votre prière a été exaucée. Restez tous les deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. Subhanallah. Qu'a dit Allah ta'ala? Il a dit, votre prière a été exaucée. En arabe, il parle ici de Moussa et de son frère Haroun. Il a dit, قد أجيبت دعوتكما دعوتكما les deux, toi et Haroun, je vous ai exaucé vos invocations. Aussi tu as dit, restez tous les deux sur le droit chemin. Vous avez remarqué, qu'est-ce qui faisait les doigts? C'est Moussa alayhi salam qui faisait les doigts. Et Allah Ta'ala a dit, vous deux, je vous ai exaucé, toi et ton frère, et restez tous les deux dans le droit chemin. Pourquoi? Il lui a pas dit toi et Moussa, il lui a dit vous deux. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam, quand il faisait les doigts, que faisait Haroun? Haroun disait Amin. Amin. Moussa faisait les doigts, Haroun disait Amin. Alors, quand quelqu'un fait un doigt, toi tu dis Amin, c'est comme si tu as fait le doigt comme lui. On ne va pas tous commencer à faire les doigts. Un seul fait un doigt, nous on dit Amin. Amin, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois demander à Allah Ta'ala qu'il accepte. Donc, tu as participé au doigt. C'est comme si tu l'avais fait toi. La même chose ici. Quand l'imam est en train de lire tout ce qu'il tu le laisses terminer, quand il dit « Wala dalim », tu dis « Amin ». Amin. Ça veut dire que ça te suffit. Ça te suffit pour la lecture. Tu as dit « Amin » au doigt qu'il faisait lui. Ça, c'est l'un des grands adidla, des livres avec lesquels c'est basé Cheikh Islam Ibn Taymiyyah pour prouver que on ne devait pas lire Al-Fatiha derrière l'imam qui lit, derrière l'imam qui lit à voix haute. Votre prière est exaucée, restez tous les deux sur le droit chemin. Subhanallah. Et pourtant, c'était un seul qui était en train de lire et non pas les deux. Naam. Astaghfirullah wa atubu. Où est-ce qu'on est maintenant? Naam. وجوب القراءة السرية. Mais on est obligé de lire dans les prières silencieuses. Quant aux prières silencieuses, il leur a vivement recommandé de réciter pendant celle-ci. Jabir radiallahu ta'ala anhu a dit, nous avions l'habitude de réciter derrière l'imam dans les prières de Dhuhr et l'Asr. La surah al-Fatiha et une autre surah dans les deux premières rak'a. et la sourate Al-Fatiha dans les deux dernières. Naam. C'est-à-dire que quand on lit à voix basse, et même lit à voix basse, tu es obligé de lire derrière lui aussi à voix basse. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria le dhuhr avec ses compagnons et il a dit: Ayyukum qara'a sabbih isma rabbika al-a'la, lequel de vous a lu glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, sabbih isma rabbika al-a'la? Faqala rajulun ana, un homme a dit: moi ya Rasulallah, moi je l'ai lu. Wa lam urid biha illa khayran, moi je l'ai lu et je ne voulais que le bien en lisant. Le prophète sallam a dit: il a dit, قد عرفت أن رجلا خلدي بها. نعم. J'ai dit alors il y a quelqu'un qui m'a disputé la salat. J'ai dit, et dans un autre verset, j'ai dit il y a quelqu'un qui m'a embrouillé la salat. Ça, c'est pour quelqu'un qui lit fort derrière l'imam, alors c'est interdit. Ensuite, le fait de dire amin, le fait de dire amin. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر بها ويمد صوته. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait la récitation de la sourate al-Fatiha, il disait Amin, premièrement, en élevant la voix, et pas entre toi et ton nefs, tu dois dire Amin, tu te fais entendre, et deuxièmement, en prolongeant la voix, c'est pas Amin, et tu t'arrêtes. Amin, Amin, c'est lent, Amin. Non, ça se dit en groupe, Amin. Mais, pas sous forme de chanson ou chansonnette, pas sous forme de nashid. L'idée le plus normalement du monde. Amin. Et ça s'arrête là. Naam. C'est pas comme dans certains mosquées, c'est presque un nashid. Surtout les enfants, etc. Les enfants aiment bien dire amin derrière l'imam tout en plaisantant, en jouant et en chantant. Naam. Il ordonnait aussi à l'assemblée de dire amin après le amin de l'imam. Non, on ne peut pas dire amin si l'imam n'a pas dit. Le prophète alayhi sallam a dit: إذا قال الإمام الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين. Non, lorsque l'imam dit non pas la voix de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, alors dites amin. Lorsque l'imam termine, il dirait le mardoubi alayhi wa l'addallin et il dit lui amin, il commence. Cheikh Al-Albani a dit, lorsqu'il commence, il dit comme ça, ah, tu écoutes le ah, il va commencer, il dit ah, toi tu commences avec lui, amin. Vous dites les deux à la fois, amin. Naam. Pourquoi? Il a dit, idha ammana al-imam fa amminu. Il a dit, lorsque l'imam dit amin, dites amin. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque coïncide son amin avec le amin des anges, alors vos péchés antérieurs vont être pardonnés. Bukhari Muslim. Subhanallah al-Azim. Si tu dis seulement amin, quand tu dis toi amin, il y a des anges avec vous qui sont en train de faire la salat. Les anges, quand ils entendent imam terminer la salat, ils commencent à dire amin, ils disent aussi amin, les anges. Le prophète alayhi sallam a dit, si jamais ton amin coïncide, il commence avec celui des anges et termine avec celui des anges en même temps, vous dites les deux en même temps amin, tes péchés que tu as fait depuis le jour où tu fais les péchés, ce jour-là vont être annulé, subhanallah, seulement en disant amin, si elle coïncide avec qui? Avec l'amin des anges, subhanallah. Les péchés, bien sûr, pas les grands péchés, les grands péchés ne s'annulent pas avec des choses pareilles, les petits péchés, mais les petits péchés c'est dangereux, il y en a beaucoup, petit, ça devient grand, petit péché, petit péché sur petit péché, ça devient grand péché. Donc alhamdoulilah, tous les petits péchés s'annulent en disant amin, si ton amin coïncide avec le amin des anges. C'est pour ça que on ne doit pas dire amin avant que l'imam commence. Car les anges ne disent pas amin jusqu'à ce que l'imam commence à dire amin. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السمن والتأمين. سبحان الله العظيم, تأمين خلف الإيمان. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, les juifs ne vous ont jamais envié, ou là, ne vous envient jamais, jamais, comme lors de la salutation, lorsque vous dites salam alaikum, et lors de amin derrière l'imam. Non, je vous l'ai dit une fois, quand tu dis salam alaikum wa rahmatullah, le juif n'aime pas cette phrase. Il meurt de jalousie. Et surtout, s'il passe devant une mosquée, il entend les gens derrière l'imam dire amin. Cela, c'est très grave pour le juif. Il n'aime pas cette chose. Non. Ensuite, la récitation après la sourate al-Fatiha. Maintenant, on a terminé avec al-Fatiha. On va passer à la deuxième sourate. Je révise très vite. Je dis Allahu Akbar. Ensuite, je choisis l'un des doigts. Par exemple, Alhamdulillahi, Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fih. Par exemple, celui-là. Si je dis, A'udhu Billahi Min Shaitan Rajim, Min Hamzihi, Wa Nafkhihi, Wa Nafkhihi. Ensuite, je dis, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. J'attends, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim. Je coupe Maliki Yawmiddin. Je coupe Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Je coupe Ihdina Assirat Al-Mustaqim. Je coupe. Maintenant je vais dire tout à la fois pour faire cette verset Sirat Al-Ladina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Wala Ad-Dallin. C'est le dernier verset, le septième. Et je coupe, ensuite je dis Amin. Et tout le monde, quand je commence Amin, ils commencent avec moi. Tous ceux qui sont derrière moi commencent à dire Amin en même temps et s'arrêtent avec moi en même temps. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait une autre sourate après Fatiha. Parfois longue et parfois courte. Suivant les occasions, telles le voyage, la toux, la maladie ou encore les enfants qui pleurent derrière lui. Naam. Et des fois, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait sourate Maryam, je crois. Ensuite, il a toussé, il s'est arrêté. Et il a fait l'inclination. Non, il a toussé, il a dit, j'arrête. Il a fait l'inclination. Donc, des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans la salat avec l'idée de l'allonger un peu. Et quelque chose se passe. Et alors, à cause de cette chose, il raccourcit sa salat. Un jour, il allégea la récitation pour la prière de l'aube, al-fajr. La prière de l'aube, en général, on lit assez de Coran. Comme a dit Allah Ta'ala, wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Car à l'aube, il y a des anges qui viennent, yani ils font la relève. Ils viennent et font la relève. Les anges qui ont passé la nuit avec nous montent et les autres commencent leur travail, leur mission, commencent salat al-subh. Ensuite, salat al-asr, il y a la deuxième équipe qui vient et cette équipe qui monte. Ça y est. Donc, la prière de salat al-subh est témoignée par les anges. Allah Ta'ala a dit wa Qur'an al-fajr. Il n'a pas dit salat al-fajr. Il a dit Qur'an, le Coran du Fajr. Pourquoi? Parce qu'il a appelé Coran. Il y a tellement de Coran, tellement yani, la prière est longue, celle du matin, qu'il a appelé Coran. Et moi, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a allégé sa salat du matin, salat sobh. Il a allégé en récitant deux sourates courtes. Lorsqu'il a terminé, faqila ya Rasulullah, on lui a dit ya Rasulullah, lima jawasta, ô messager d'Allah, pourquoi l'as-tu fait courte? D'habitude tu fais salat sobh longue, pourquoi aujourd'hui tu as fait deux rak'at courtes? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. Écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Ta'ala a envoyé rahmatan lil alamin. Regardez ce qu'il a répondu. Ya Rasulullah, pourquoi tu as fait la prière aujourd'hui courte? Écoutez ce qu'il a dit. J'ai entendu les pleurs d'un enfant. J'étais dans la salat. J'ai entendu les pleurs d'un enfant et j'ai supposé que sa mère priait avec nous. Alors j'ai voulu la libérer pour qu'elle retourne s'occuper de son enfant. Allahu Akbar. Ahmed rawa Ahmed bi sanadin sahih. Subhanallah al-azim. Écoute, ça dit le professeur, ça devait s'écrire, yani en or, et en or on doit écrire cette phrase. J'ai entendu les pleurs d'un enfant. Alors j'ai supposé que sa mère priait avec nous. Alors j'ai voulu la libérer, libérer sa mère pour qu'elle retourne auprès de son enfant qui est en train de pleurer. Imaginez maintenant ce que font les imams si jamais ils rentrent dans la salat et ils entendent un enfant pleurer. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire ici, pardon, c'est à qui ce bébé? C'est à qui ce bébé? La mère dira, ya Rasulallah, il est à moi. Toi, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte de me faire venir ton enfant ici dans la salate? Il nous a embrouillés à cause de lui. J'ai fait une prière courte. D'habitude, je lis très long. Maintenant, à cause de ton fils, j'ai fait deux rak'at très courtes. Tu n'as pas honte? D'abord, toi, qui est-ce qui t'a dit de sortir à la maison? Reste chez toi. Et encore, c'est la salat sobh. Pourquoi tu es venu à 4 heures du matin, toi, à la mosquée? Subhanallah al-Azim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, raccourcit de la salat à cause d'un enfant, un petit bébé, qui n'a aucune valeur, qui n'est même pas obligé de venir à la mosquée. Raccourcit de la salat à cause d'une femme. La femme, elle n'est pas obligée de venir à la mosquée. Elle reste chez elle. Ce n'est pas obligé, c'est l'homme qui doit aller à la mosquée. Raccourci de la salat à cause de ne pas, yani, de ne pas, comment on connaît ça, de ne pas, yani, blesser sa mère. Il sent, il se met à la place des autres. Il dit, je sens que sa mère est en train de souffrir à l'entendre, en train de crier et de gémir. Donc je préfère raccourcir ma salat, la raccourcir pour lui, pour la libérer, afin qu'elle aille vers son enfant, qu'elle le prenne dans ses bras, qu'elle lui donne le lait, etc. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Il sent. Quand tu es un vrai croyant, tu ne vis pas seulement pour toi. Tu vis aussi pour ceux qui sont qui t'entourent. Tu sens ce qu'ils sentent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah wa tawbah. Quand il est monté vers le ciel et il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, etc., où Allah ta'ala lui a obligé la salat, il a dit, je suis allé au paradis, je suis rentré au paradis, j'ai vu un palais, je me suis dit, ou bien j'ai demandé, c'est pour qui ce palais? On m'a dit, pour un arabe. J'ai dit, je suis un arabe. Je dis, c'est pour qui ce palais? On m'a dit, pour quelqu'un de Quraysh. J'ai dit, je suis de Quraysh. J'ai dit, c'est pour qui ce palais? On m'a dit, c'est pour Omar ibn Khattab. Qu'est-ce qu'il y avait devant ce palais? Une jeune fille en train de faire les ablutions. Hier, j'avais dit que dans le paradis, celui qui veut faire les ablutions, faire la prière, il est libre. Il n'est pas obligé. Il y avait une jeune fille en train de faire les ablutions devant un palais, mashallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai voulu entrer dans le palais, ce palais pour le visiter, tellement il était beau. Ensuite, voilà le dars, le témoin du dars. Ensuite, je me suis rappelé la jalousie de Omar, que Omar était très jaloux, et je ne suis pas rentré. Et quand il est descendu sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Omar, tu avais vu, lorsque j'ai vu ton palais, une jeune fille en train de faire des ablutions devant la porte, son palais, comment qu'il est, masha'Allah. Et j'ai voulu rentrer, et je me suis rappelé ta jalousie, je ne suis pas rentré. Alors Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu a commencé à pleurer, et lui a dit, ya Rasulallah, aminka aghar, ya Rasulallah, est-ce de toi je suis jaloux, subhanallah, est-ce de toi je suis jaloux? Yani, il fallait rentrer, ya Rasulallah, il fallait rentrer. Je suis jaloux, certes, mais pas de toi. Allahu Akbar, comment je serais jaloux de toi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le dars, c'est quoi? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, je rentre dans le palais, je m'en fous, je rentre, moi je m'en fous de Omar, c'est moi le prophète. Non, il a dit, je sais que Omar al-Khattab est jaloux, je rentre pas. Subhanallah. Et c'est la même chose. Il dit, il y a la femme qui est derrière, la mère derrière moi, je suis sûr qu'elle est en train de souffrir, en train d'entendre son bébé gémir, je rentre pas. Astaghfirullah, j'ai dit, je rentre pas. Yani, je n'allonge pas ma salade, je la raccourcis. Les avantages qu'il y a dans ce hadith aussi, c'est que les enfants peuvent rentrer dans la mosquée même si ce sont des bébés. Seulement, il faut qu'on leur mette des couches. Qu'on leur mette des couches pour que, s'ils font leurs besoins, ou bien ils urinent, ils ne salissent pas. Ils ne salissent pas la moquette et ils ne salissent pas les tapis, c'est tout. L'enfant n'est pas interdit parce que c'est un enfant, mais il est interdit qu'on le laisse souiller la moquette et souiller les tapis. Maintenant, s'il est bien couvert avec des bandes, etc., on l'emmène à la mosquée, on lui donne un petit ballon, il joue avec, comme c'est dans Sahih al-Bukhari, où il dit que les mères donnaient de petits ballons de laine, avec la laine, le ballon de laine, il n'y avait pas le ballon d'aujourd'hui, en train de jouer, il a dit, tout ça, ça se fait bien sûr. On prend de ce hadith, ça c'est en passant seulement, en passant, je vous donne un avantage sur ce hadith, on prend de ce hadith que, par exemple, l'imam, je fais le recours, je suis imam, j'ai fait l'inclination, j'ai commencé à dire, Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, j'entends quelqu'un rentrer, et je sais qu'il est loin, entre la porte et le rang, il est loin. Est-ce que j'ai le droit, en tant qu'imam, de l'attendre? Je vais allonger. Je vais dire Subhanallah wa bihamdihi. Au lieu de dire 3 fois, je vais dire 5, 6, 10 fois. Pour donner à l'autre le temps qu'il arrive au rang, l'inclinaison. Est-ce que ça se fait ou bien ça se fait pas? Certains ont dit, c'est du shirk. C'est du shirk. Pourquoi c'est du shirk? Ils ont dit, toi tu t'inclines, tu allais dire Subhanallah wa bihamdi 3 fois, maintenant à cause de la personne qui va rentrer, tu vas la faire 6 fois ou 10 fois. Ce n'est pas à cause d'Allah, c'est à cause de la personne qui va rentrer. Non. Mais le plus juste, Inch'Allah ta'ala, que ça se fait et que ce n'est pas du shirk. Pourquoi? Parce que, comme a dit Ibn Hazm al-Asqalani Fath al-Bari, il a dit Subhanallah. Il a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raccourci, je dis bien raccourci, sa salate à cause de quelque chose du bas monde, à cause d'un enfant qui a pleuré, alors n'est-il pas possible de l'allonger, non pas de la rallonger, de la raccourcir, alors n'est-il pas possible de la rallonger à cause de quelque chose de l'au-delà? Subhanallah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raccourci sa salat à cause d'une chose du bas monde, à cause d'un enfant qui pleurait, alors n'est-il pas plus valable de la rallonger, c'est pas la raccourcir, de la rallonger à cause de quelque chose de l'au-delà, c'est-à-dire à cause de quelqu'un pour qu'il attrape la prière, pour qu'il attrape la rak'at avec moi. Subhanallah l'Azim. C'est très très logique. Non. Maintenant toi, ta salat, tu peux la raccourcir à cause d'un bébé. Tu allais la faire longue, tu l'as raccourci. Et maintenant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le contraire. Moi je vais l'allonger à cause de quelqu'un pour qu'il rentre dans la salat. C'est-à-dire, s'il m'est possible de la raccourcir à cause de quelque chose du bas monde, un gamin qui a pleuré, donc il est possible de la rallonger à cause de quelqu'un qui rentre dans ma salat avec moi. Naam, c'est la vue le plus sûr, Inch'Allah ta'ala. Ensuite il disait, naam, je crois que je vais arrêter là. Hein, c'est mieux pour. Je vais terminer avec celle-là. Je vais terminer avec cette chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après l'histoire de l'enfant, il a dit Li kulli suratin raka'a. À chaque surat, sa raka'a. À chaque surat, sa raka'a. Mais quelquefois, il combinait 2 surats ou plus dans une seule raka'a. Les délits vont venir. Quand tu lis toi, tu lis Alhamdulillah plus une surat, plus Qul huwallahu, plus Tini wa Zaytoun, plus une Baqara, tu es libre. Mais des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait deux surats, une raka'a plus 2 surats. C'est possible, naam, c'est possible de lire plus d'une surat. Le dalil, un membre de la tribu des Ansar, un membre de la tribu des Ansar, qui les guidait en prière dans la mosquée de Quba. Il y avait quelqu'un qui guidait les compagnons du prophète, dans la mosquée de Quba. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur récitaient à chaque fois une fatiha, plus une sourate, et commençaient toujours par قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ jusqu'à la fin. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récitaient une autre sourate et faisaient ainsi à chaque raka'a. Donc il y avait une personne qui guidait les gens. Qu'est-ce qu'elle faisait cette personne? À chaque fois qu'elle terminait Alhamdulillah, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lisait قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, et quand elle terminait قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, elle lisait une autre sourate. Et dans une autre narration, il faisait le contraire. Cette personne lisait Al-Fatiha, ensuite lisait une deuxième surah, et terminait toujours par Qul Huwallahu Ahad. Donc les gens, vinrent lui parler et lui dire. Ils lui ont dit, écoute, tu commences toujours par cette surah, et ensuite, tu ne la considères pas suffisante, puisque tu en récites une autre. Tu récites, il y en a une autre. Alors tu choisis. Ou bien tu la récites seule, il y en a قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, ou bien tu la laisses, tu récites une autre. Il a dit, je ne la délaisserai pas. Je lirai toujours قُلْ هُوَ اللَّهُ et une autre sera avec elle. Si cela ne vous fait rien, que je vous guide avec en prière, je continuerai. Mais si cela vous déplaît, je vous quitterai, vous êtes libre, vous pouvez vous m'accepter avec, à chaque fois je lis قُلْ هُوَ اللَّهُ plus une autre surah, j'en ai deux, je lis Fatiha et قُلْ هُوَ اللَّهُ et une autre surah avec elle, mais toujours il y a قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, ou bien aller chercher un autre imam. Il a dit, et puisqu'il savait qu'il était l'un des meilleurs parmi eux et ne voulait pas être guidé par quelqu'un d'autre, ils ont accepté. À une fois, lorsqu'ils ont rencontré le prophète, ils lui ont raconté l'histoire. Ils lui ont dit, il y a quelqu'un avec nous, à chaque fois qu'il commence la salat, dès qu'il termine Fatiha, il va قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, ensuite, ça ne lui plaît pas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, il ajoute une autre surah. Le prophète, lui a dit, يَا فُلَانْ, oh, أَنْتَلْ, مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِيَصْحَابُكَ, qu'est-ce qui te retient de faire ce que tes amis te demandent? C'est-à-dire, tu lis seulement une seule surah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a répondu au prophète, il lui a dit, j'aime cette surah, c'est-à-dire, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, j'aime cette surah. Le prophète lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, حُبُّكَ إِيَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةِ, ton amour envers cette surah t'a fait rentrer au paradis, ou te fera rentrer au paradis. Rawa al-Bukhari, subhanallah al-Azim, ton amour pour قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ tu feras rentrer au paradis. Enfin, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, vous savez que قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, elle vaut combien? Elle vaut le un tiers du Coran. Non, elle vaut le tiers du Coran. Parce que tout le Coran est divisé en trois. Ou bien Allah Ta'ala parle de lui, ou bien il parle de sa sharia, ou bien il parle de son enfer et qu'est-ce qu'il y a dans son paradis. Donc il est divisé en trois. Ici Allah Ta'ala, قُلْ هُوَ اللَّهُ, il n'a parlé que de lui. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. Donc, c'est le tiers du Coran. Tu as le tiers du Coran qui est avec toi quand tu lis قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Et ça ne veut pas dire que tu vas la lire trois fois pour lire tout le Coran. Ça, c'est une bid'a. Non, tu ne la lis. Si tu la lis une fois, Allah Ta'ala va t'écrire comme si tu as lu le tiers du Coran. Et si tu lis, Allah Subhanahu wa Ta'ala va t'écrire comme si tu avais lu le quart du Coran. Mais il est impossible de lire la première trois fois et la deuxième quatre fois. J'arrête ici, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ta'amallah, dis-moi qui est avec toi. Ta'amallah, dis-moi qui est avec toi parmi les ikhwa. Dis-moi qui est avec toi. Je parle des admins. Qui est avec toi? Excuse-moi le temps que je cherche quelque chose ici, pour savoir où je me suis arrêté. Dawa salafiya, il est là et il y est. Masha'Allah. Yani, indana masha'Allah, yani, naïkfina b'ilna azzawaja. Naam. Lorsqu'elle est au Ma'abdillah, je ne sais pas si elle est là, si elle n'est pas là. un peu difficile pour la trouver, c'est sûr. عبد الله واسوي بارك الله فيك لاف لا ما ام عبد الله لاف لا ما ام عبد الله لاف لا ما ام عبد الله لاف لا ما طيب ام عبد الله نيبالا واسمو هذيك اخت سلفيه ليلى نعم Donc, Inch'Allah, vous êtes trois frères pour trois sœurs. Trois frères pour trois sœurs. Bi'idhnillah et Azzawajal. Je cherche l'autre salafi, je ne sais pas où c'est lui. Non. Oui, je cherche l'autre salafi, je ne l'ai pas trouvé. Il y avait une autre salafi. Oui, pour ne pas perdre de temps comme ça à chercher. Je donne l'âme sous les mains du 13 qui est la troisième devant moi. Non. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il saute, Inch'Allah. Il saute, Inch'Allah, ou la mafia. في صوت طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونكمل إن شاء الله تعالى par la première question. Avant la première question, je voudrais dire que je ne me suis pas enregistré pour vérifier une chose. Je voudrais que vous vérifiez une chose. Quand j'ai dit que قل هو الله أحد valait le tiers du Coran. Valait le tiers du Coran. Ensuite, je voulais dire, je ne sais pas là ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit, qu'il y a eu un kafirun, vaut le quart du Coran, ou là j'ai dit une autre sourate. C'est-à-dire, je n'ai pas là pour vérifier qu'est-ce que j'ai dit, mais j'ai des doutes maintenant. Je me dis, peut-être que je n'ai pas dit, qu'il y a eu un kafirun. Maintenant, vous écoutez la cassette. Si j'ai dit, qu'il y a Allahu Ahad, c'est le tiers du Coran, et qu'il y a Eyyuhal Kafirun, c'est le quart du Coran, c'est que c'est juste. Si j'ai dit une autre surah, c'est que je me suis trompé. C'est que j'ai dit une autre surah à la place. Vous corrigez. Pour ceux qui ont enregistré, ils ne laissent pas la cassette fausse. Enfin, si elle est fausse, hein, si j'ai dit qu'il y a Eyyuhal Kafirun, il n'y a pas de problème. Si j'ai dit une autre surah, vous devez corriger. Comment que vous corrigez? Vous faites revenir en arrière et vous effacez. Vous effacez, hein, et vous enregistrez là où j'ai parlé, où j'ai dit par exemple une autre surah. Si j'ai dit une autre surah, je ne sais pas. Vous enregistrez, comme ça vous laissez le vide. Il vaut mieux que ça soit vide que quelqu'un quand il entend la cassette. Comme ça on enregistre, donc on vérifie. Non, il vaut mieux laisser vide. Quand vous laissez vite, voilà. Une sœur ici m'a dit, vous avez dit Zelzala. Une sœur m'a dit, vous avez dit Zelzala. Et de Zulzilat il Ard. Non, j'ai des doutes, je crois avoir dit cela. Non. Si j'ai dit de Zulzilat, vous corrigez. Ou bien, vous parlez à ma place, vous dites Kouli Ayou Al-Kafirun. Ou bien, vous enlevez carrément l'enregistrement. Comme ça, si vous le donnez aux gens ou là, au moins, ils n'entendent pas quelque chose, je me suis trompé. Non, surtout celui qui m'enregistre et qui pose les enregistrements à télécharger. Celui-là, il a une responsabilité plus que les autres. Et je me désavoue de ce que j'ai dit. Fadlan, Inch'Allah, première question, et on s'arrêtera bi'idhnillah à 1h du matin. Regardez bien vos montres, il est chez moi minuit et quart. C'est-à-dire dans 30 minutes et un quart d'heure, on arrête, Inch'Allah. Salam alaikum. Si on entre dans la mosquée et que l'on trouve l'imam en recours, et lorsque nous on entre en prière, avant de mettre en recours, l'imam se relève. Et moi j'ai le temps de rester en recours et de glorifier Allah, Marc a été accepté ou non. Je répète, si on rentre dans la mosquée et que l'on trouve l'imam en recours, Et lorsque nous, on entre en prière avant de se mettre en rukou, l'imam se relève. Et moi, j'ai le temps de rester en rukou et de glorifier Allah. Ma raka est-elle acceptée ou non? C'est une question un peu pas claire. Elle n'est pas très claire. Elle n'est pas très claire. Mais je vous dis quelque chose d'important. Quand vous rentrez dans la salat, pardon, quand vous rentrez dans la mosquée, vous trouvez, par exemple, imam dans le rukou. Et vous voyez les rangs derrière lui qui sont dans le rukou. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Le hadith est dans Sahih Muslim. Il a dit, tu te bases sur le dernier rang. Tu ne te bases pas sur l'imam. Sauf maintenant, bien sûr, si tu entends l'imam, avec quoi? Avec le haut-parleur. Mais s'il n'y a pas l'imam qui est loin devant toi, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur le dernier rang. Même si l'imam s'est levé, même si l'imam, il a dit, Sami'Allah liman hamidah, il s'est levé. Et le dernier rang ne s'est pas encore levé, tu te bases sur le dernier rang, toi. C'est-à-dire que tu as attrapé cette raka'a bi'idhni azzawajal. Et maintenant, si j'arrive moi, et j'entends l'imam, ou là je le vois devant moi, il n'y a pas beaucoup de gens, il a dit, Sami'Allah, il s'est relevé, même Sami'Allah, il s'est relevé, moi qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas l'inclinaison, puisqu'il s'est relevé. Je dis Allahu Akbar, et je descends avec lui maintenant directement pour la prosternation, sans faire l'inclinaison, ou là, l'inclination. Non, sinon, je n'ai pas bien compris la question. Moi, je vois l'imam se lever en même temps que je me baisse. Non, si tu le vois se relever en même temps que tu te baisses, cette raka'a ne va pas être acceptée. Parce que toi, tu es en train de descendre, et lui, il est en train de se lever. Non. Il faut que tu le prennes, il faut que tu arrives avec l'imam, il est en train de faire l'inclinaison, il est incliné, et non pas, il s'est relevé. Maintenant, s'il s'est relevé, toi tu descends, tu ne dois pas compter cette raka'a, Inch'Allah ta'ala, elle est perdue. Non. Fadlan, Inch'Allah, deuxième sourate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nous sommes un groupe de sœurs qui se réunit une fois dans la semaine. Nous faisons des questions-réponses par rapport au dîn. Et quand c'est l'heure de la salat, nous ne savons pas qui doit guider. Est-ce que c'est celui qui est plus âgé ou celui qui a plus de Coran? Naam, celle qui a plus de Coran, c'est celle qui vous guide, inshallah ta'ala. Celle qui connaît le Coran mieux que vous. Et en même temps, je dis, et en même temps, connaît les règles de la salat. Il est possible qu'il y ait une femme, elle a appris le Coran, mais elle ne sait pas comment faire la prière. Elle lui a seulement appris le Coran. Il faut qu'elle sache le Coran plus que les autres, et en même temps, elle connaît les règlements de la salat. Elle connaît comment, quand on descend, qu'est-ce qu'on dit quand on descend, qu'est-ce qu'on dit quand on se relève, si jamais je perds une raka'a, comment on la rectifie, etc. Naam. Inch'Allah ta'ala, c'est comme ça. Naam. Et quand vous dites que vous faites des questions-réponses, j'ai peur un peu pour vous. Naam. Si vous faites des questions-réponses par rapport au dîme, j'ai peur un peu pour vous que vous répondiez d'une façon qui ne soit pas exactement conforme. J'ai peur pour vous. J'aurais aimé que vous ne fassiez pas questions-réponses, mais que vous fassiez autre chose. Vous disiez par exemple Riyad Salihin. Vous disiez Riyad Salihin. Vous disiez Qasas al-Anbiya. Vous lisez la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous lisez quelque chose, et question-réponse, c'est un peu difficile. Naam, c'est un peu difficile si tu n'es pas assez balèze, yani, dans la sharia. Naam, tu risques de répondre faux. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Fadlan, inshallah, troisième question, inshallah. Khair, inshallah. Salam alaykum. Masha'Allah, aujourd'hui, tout le monde écrit en grand, masha'Allah. Seulement, personne n'écrit numéro 1, sauf Ben Tashmik qui a écrit numéro 1. Assalamu alaikum. Si je rentre à la mosquée et je trouve les trouves en pleine inclinaison, est-ce que je dirais Allahu Akbar deux fois ou une suffi takbir ihram qui est obligatoire puisque cette inclinaison est sunna? Naam. Celui qui peut faire deux fois, il fait deux fois. Il dit Allahu Akbar. Il attend un peu et il ajoute la deuxième là pour descendre. Ça, c'est le plus juste, le plus parfait. tu fais Allahu Akbar et la deuxième Allahu Akbar. Si jamais tu n'as pas le temps et tu sais que tu ne peux faire qu'une seule, qu'un seul takbir, au moins fais-le avec l'intention de takbir ihram. Fais-le avec l'intention de rentrer dans la salat. Parce que ici, beaucoup de gens se trompent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient l'imam incliné, ils ont peur. Ils ont peur que l'imam se relève avant que je m'incline. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il arrive devant le rang, il dit comme ça, il dit Allahu Akbar et il descend directement. Directement, Allahu Akbar et il descend. Et ça c'est faux, il ne peut pas. Il faut dire Allahu Akbar et attendre un peu pour prouver que tu as dit Allahu Akbar debout. Et non pas, je l'ai dit tout en m'inclinant. Allahu Akbar doit être debout. Au moins j'attends une ou deux secondes debout. Allahu Akbar, un peu comme ça, et je descends. Même si je n'ai pas le temps de dire deuxième Allahu Akbar, c'est moins grave. Mais il faut que je le fasse debout le premier takbir. Et n'oublie pas une chose très importante, si la raka est passée et tu ne l'as pas attrapée, c'est moins grave que d'annuler ta salat. Car si tu dis pas Allahu Akbar debout, tu le dis en inclinant, tu as annulé ta salat. Donc ça ne fait rien. Je laisse la raka partir, je la laisse partir, ça ne fait rien, et j'ai ma salat qui est juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque sort de la maison, il fait les wudu, masha'Allah, yani avec perfection. Et il veut aller à la mosquée, il a dit, s'il arrive à la mosquée, il a dit, s'il arrive et il trouve les gens qui ont terminé la salat, Allah Ta'ala lui écrira comme s'il avait fait la salat avec eux. Masha'Allah. Regarde, ça c'est un hadith sahih. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu arrives à la mosquée, tu trouves les gens qui ont terminé la salat, Allah Ta'ala t'écrira la salat complète, comme si tu l'as faite avec eux. Pourquoi? Parce que les actions marchent avec les intentions. Tu avais l'intention de la faire avec les gens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand j'arrive avec l'imam, je le trouve dans le tashahhud, il va dire salam alaikum, je dois rentrer avec lui. Je dis par là, il va dire salam alaikum, laisse-le dire salam alaikum, après je fais la salat moi-même seul. Non. Tu rentres avec lui, tu dis Allahu Akbar, tu t'assois et tu fais le tashahhud avec lui deux ou trois mots si tu peux pas, et tu dis salam alaikum. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Quatrième question, tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez dit la doua suivante. A'oudou billahi min shaitani min hamzi wa nafthi wa nafthi. Doit-on dire cette doua à chaque fois pour commencer la récitation de Fatiha? À chaque. Regardez. Quand on dit Allahu Akbar, on fait le doua. Allahu Akbar natan kabira wa alhamdulillah kathira wa subhanallah bukratan wasila. A'oudou billahi sami' al-alim min shaitani rajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Je lis Fatiha. Quand je termine Fatiha, je peux dire seulement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai terminé Fatiha, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et je lis une deuxième surah. Mais à chaque fois que je commence une nouvelle rak'at, je la commence par A'oudou billahi minash shaitani rajim, min hamzihi wa nafthihi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je lis Fatiha, je termine Fatiha, je dis seulement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et je lis la deuxième surah, Qul huwallahu, et ainsi. Donc ce doua marche avec Fatiha. Avant de commencer la Fatiha, on lit ce doua. Naam. Faudra, Inch'Allah, prochaine question. Pour celui qui ne peut pas le dire, ou là qui est nouveau converti, ou là c'est difficile, ou là, il dit le plus simple. Il dit A'oudou billahi minash shaitani rajim. A'oudou billahi minash shaitani rajim. Naam. Et j'oublierai pas de dire une chose. J'ai oublié aussi, c'est quoi? Même si tu n'es pas convaincu, c'est-à-dire que tu prends de l'avis de Cheikh Al-Albani, que ce n'est pas obligé de lire le Fatiha derrière l'imam quand il est à voix haute. Même si tu prends cet avis et que tu fais la prière derrière un imam qui donne l'occasion aux gens de lire, il se tait, il fait la bid'a de 2 minutes. Il se tait 2 minutes pour laisser les gens lire. Toi, ne laisse pas le vide. Quand il se tait l'imam, il donne 1 minute ou la deux, lis le Fatiha. Pourquoi? Pour ne pas laisser la salat comme ça vide. Car toi, tu es de l'avis de ceux qui ne lisent pas. Mais tu ne peux pas rester comme ça, yani, sans rien dire. Alors qu'est-ce que tu fais? Lis le Fatiha. Lis le Fatiha quand il te donne la minute ou les deux minutes, même si tu n'es pas yani, de l'avis de ceux qui doivent la lire. Naam. Assalamu alaikum, mes chers. Alaikum salam. Si un imam veut appliquer la sunna lors de la prière, c'est-à-dire réciter de longues sourates, par exemple, comme la vache ou le nifa, peut-il le faire, sachant dans la mosquée qu'il y a des vieux ou des personnes malades. Aujourd'hui, les vieux se plaisent beaucoup, J'aimerais savoir, à l'époque du prophète Islam, il y avait des vieux qui priaient avec lui, comment ces vieux faisaient pour rester debout à écouter la sourate, etc. Maintenant, les caractères ont beaucoup changé et le dîn a beaucoup faibli et l'amour de la sunna a beaucoup mincé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu fais la salade seule, fais la longue, mais si tu guides les gens, yani fais la courte, ou en ce sens. Il a dit dans un autre hadith, anta imamu qawmik, anta imamu qawmik. Dans un hadith, il a dit faqduru. C'est-à-dire que la base, c'est que quand tu fais la prière, tu guides des gens, tu dois la faire courte. C'est ça la base. Sauf dans un cas, quand je dis courte, c'est pas une courte que tu vas faire très vite. Attention, c'est pas très vite, j'ai dit courte. C'est-à-dire que tu choisis des sourates qui sont courtes. Ida Zulzilat, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Ad-Duha, ces sourates, naam, quand tu guides les gens. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as fait vite. Tu l'as fait yani, avec humilité, doucement, et en lisant des sourates courtes. Naam. Mais tu peux la faire longue, quand tu fais la prière avec des gens qui, tous, comme a dit Ibn Hajj al-Asqalani dans cette Hibari, il a dit, il faut qu'ils soient tous d'accord pour la faire longue. Premièrement. Deuxième condition, il faut que vous soyez dans un endroit où vous êtes sûr que personne ne va rentrer, ni des vieux, ni des malades. Comme par exemple où? Par exemple dans une maison. Vous êtes invité chez moi, je vois, il n'y a que des frères, machallah. Je dis, attention, on va faire le dhuhr assez long. Hein? On peut. Pourquoi? Je suis sûr que personne ne va rentrer avec nous dans la salade. Il n'y a pas mon père. Mon père, c'est un vieux, il n'habite pas avec nous. Il n'y a personne qui va rentrer avec nous. Mais si tu es dans une mosquée, tu ne peux pas. Tu dois faire quoi? Choisir les surat, yani les moyennes, les moins longues, الضحى والشمس والضحى والليل إذا يغشى سبح الغاشية, ces surat. Et tu ne dois pas lire avec les longues surat, les Baqara et les autres, parce que les temps ont beaucoup changé, la foi a beaucoup rétréci, l'amour de la sunna n'existe presque plus, il est très faible, et tu vas faire de grandes fitna dans la mosquée. Tu vas faire de grandes fitna dans la mosquée. Naam. Faddam, inshallah, prochain sou'al. Salam alaikum, alaikum salam. Quel est l'avis le plus juste quand on rate la prière de Fajr car on ne s'est pas réveillé? Faut-il la faire quand on se réveille, même si le lever du soleil est déjà passé? Ou alors rien ne sert de la faire car son temps est passé et n'est donc pas valable? Pardon, Ibn Sulayman du 13. Qu'est-ce que ça veut dire la prière du Fajr? Parce qu'ici au Koweït, si tu dis la prière du Fajr, ça veut dire la prière du Sobh. Ici, la prière du Fajr, il l'appelle la prière du Sobh. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Tu es en train de parler de la sunna, où on lit, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, ou bien tu es en train de parler de la prière du Sobh, de l'obligatoire. Alors j'attends, inshallah ta'ala, que tu m'expliques. Est-ce que celle qui a posé la question parle de la sunna ou la parle de la prière obligatoire du Sobh? J'attends, inshallah, ta question. Pardon, ta réponse. L'obligatoire, ah, tu vois, Tu vois, en Souleymane, tu m'as écrit le Fajr. Le Fajr, en Algérie, chez beaucoup de gens, le Fajr, à part ici au Koweït et peut-être à part chez vous, le Fajr, c'est la Sunna. C'est « Qoli ayyou al-kafirun, qul huwallahu ahad ». Ensuite vient l'obligatoire qui s'appelle « Sobh ». Et comme ça, en Algérie, c'est pour ça que hein, quand quelqu'un pose une question, il faut lui dire « qu'est-ce que tu veux dire ?» Imaginez maintenant, imaginez que j'ai répondu moi, d'après ce que j'ai compris. Moi, je croyais que c'était Salat al-Fajr. Imaginez que j'ai répondu du Fajr, ça aurait été une catastrophe. Non. Vous voyez, quand quelqu'un se réveille en retard, la première des choses qu'il doit faire, c'est commencer par la Salat. Non. La Salat obligatoire n'a pas de moment où elle est interdite. La salat obligatoire n'a pas de moment où elle est interdite. Quand je me réveille à 7h du matin ou à 8h du matin ou à 9h, je commence directement par la prière. Pourquoi ? Parce que c'est une salat obligatoire, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque dort d'une salat ou bien l'oublie, qu'il la fasse quand il se réveille. Ou il a dit qu'il la fasse quand il se rappelle. Quand il se rappelle. Donc tu te réveilles, dès que tu te réveilles, ou bien tu te rappelles une prière oubliée, tu dois la faire au même instant. Tu ne regardes ni le soleil, est-ce qu'il est sorti ou il n'est pas sorti, est-ce que le soleil s'est couché ou il ne s'est pas couché. Ça n'a rien à voir avec l'obligatoire. L'obligatoire, tu dois la faire à partir de la minute où tu t'es réveillé ou bien où tu t'es souvenu. Non. Où tu t'es réveillé ou bien où tu t'es souvenu. Maintenant, si tu te réveilles et il y a deux prières, il y a par exemple la prière du Fajr, il y a la Sunna que tu n'as pas faite, ensuite il y a l'obligatoire, tu n'as pas fait les deux. Maintenant, on va voir quand est-ce que tu t'es réveillé. Si tu t'es réveillé, il fait toujours nuit. Je me suis réveillé en retard, mais il fait toujours nuit. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'Azan. Ensuite, je fais la prière du Fajr, ensuite, je fais l'Iqama, et je fais la prière obligatoire. Premier cas. Deuxième cas, je me suis réveillé, il fait jour, masha'Allah, il est 10h du matin. Là, c'est le contraire du premier cas. Le premier cas, je me suis réveillé, il faisait tout nuit. Le deuxième cas, c'est le contraire. Je me suis réveillé, il fait tout blanc. Alhamdoulilah, il y a le soleil qui s'est levé depuis une heure. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais le Adhan, ensuite je fais Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, ensuite Iqama, et ensuite Salat al-Sobh. Pourquoi? Parce que, classe, le temps est parti, il vaut mieux que je fasse la prière à l'ordre. Alors, je commence par le Fajr, Sunna, ensuite Sobh. Donc, Masha'Allah, c'est simple. Premier cas et deuxième cas, c'est la même chose. Premier cas où il fait nuit, deuxième cas où il fait jour, il y a le soleil, je commence dans les deux cas par le Fajr, ensuite le Sobh. Sunna, ensuite obligatoire. Et maintenant, troisième cas, je me suis réveillé ou dans un état où il va faire soleil. Le soleil ne s'est pas encore levé, mais les rayons ont commencé à luire. Les rayons, je vois les rayons, ça veut dire que le soleil va bientôt sortir. Et si je sors, je perds quoi? Si le soleil se lève, je perds Salat al-Sobh. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais directement l'Azan, l'Iqama et Salat al-Sobh. Ensuite, j'attends, quand le soleil se lève bien en haut, je fais la Sunna du Fajr. Inch'Allah ta'ala, vous avez compris, ça doit être noté. Vous devez noter ça, vous achetez. C'est un stylo qui est écrit en or. Ce n'est pas le stylo en or. Le stylo en or lui-même, il est haram. Mais il est écrit en or. Et vous écrivez cette règle. Que je répète très vite. Si je me réveille, il fait encore nuit. Alhamdoulilah, le soleil est loin de se lever. Je commence par le Fajr, ensuite le Sobh. Le contraire, si je me réveille, là, s'il fait jour, il est 10h du matin, 9h du matin, je commence par le Fajr, ensuite le Sobh. Maintenant, troisième cas, celui du milieu. Je me réveille, il fait nuit, mais j'ai peur que dans 5 minutes, 10 minutes, le soleil va se lever. J'ai peur. je vois même le soleil, il va se lever. Qu'est-ce que je fais ici? Je commence par le sobh et je laisse le fajr pour que je le fasse après quand le soleil se lèvera bien au ciel, inshallah ta'ala. Cheikh, les ulama qui disent la salat passe, ne compte plus, ils prennent en considération le sommeil. J'ai pas compris la question. Les ulama qui disent que la salat passée ne compte plus, prennent-ils en considération le sommeil? Là, une seconde. Je relis les soleils. Les ulama qui disent que la salat passée ne compte plus, prennent-ils en considération le sommeil? Il n'y a pas un alim qui dit que la salat passée ne compte plus. Je ne crois pas qu'il y ait un alim qui dit cela. Et s'il dit cela, là, ce n'est plus un alim. Là, s'il a dit cette chose, c'est une grande faute. Il ne peut pas être un alim en disant comme ça. Comment? Tu t'es endormi. Tu t'es réveillé. Tu dis que ce n'est pas la peine de faire la salat parce que tu t'es réveillé tard. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'il fait du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man nama an salat aw nasiya fal yusalliha idha dhakara. Quiconque dort d'une salat ou bien l'oublie, qu'il la fasse quand il se souvient. Qu'est-ce qu'il fait ce hadith? Non. Quand tu dors, tu es excusé. Si tu as mis le réveil, etc., il n'a pas sonné ou là tu ne l'as pas entendu ou là tu es excusé. Mais tu es obligé de rattraper ta salat. C'est un dîme. C'est un dîme, c'est des dettes. Tu as des dettes sur ton épaule. Quel est le savant qui va te dire c'est pas la peine de payer cette dette? C'est impossible. Il faut la faire. Naam. Fadam, inshallah. Prochaine question, inshallah. Assalamu alaikum. Est-il permis de faire la salat en cédant de la salat de la télévision ou de la radio? Est-il permis de faire de la salat en cédant de la salat de la radio ou de la télévision? Ta'amallah. Est-ce que la question c'est, j'ai pas bien compris la question, est-ce que la question c'est, je me guide? Naam, ça veut dire la télévision ou bien la radio me guide? Ah, naam. La réponse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Tu ne peux pas, personne ne peut être guidé par la télévision ou par la radio. Personne, même si c'est en direct. Car tu ne peux être guidé que si tu fais partie de les gens qui sont derrière l'imam. Il y a l'imam, il y a les gens derrière lui, ensuite. Les gens, des rangs. Ensuite, la mosquée complète. Ensuite, il y a des rangs dans la rue, les rangs, même si ça va comme ça, 5 kilomètres, ça ne fait rien. Car vous êtes tous guidés par le même imam qui est à l'avant. Mais si toi, tu es chez toi, l'imam est chez lui, je ne sais pas combien de kilomètres, ta salat est battée là. Tu ne peux pas faire la salat derrière le imam qui est à la télévision ou bien qui est à la radio. Naam, tu fais la salat seul. Naam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Et vous avez remarqué, alhamdoulillah, aujourd'hui, que je n'ai pas beaucoup toussé. Vous avez remarqué, alhamdoulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, que aujourd'hui je n'ai pas beaucoup toussé, alhamdoulillah. Tafaddal, inshallah. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. La femme doit-elle dire amin à voix haute lorsqu'elle prie derrière son mari avec un groupe de femmes à la maison ou à la mosquée? Jazakallahu bikhair. Les doigts sont entendus, masha'Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum. Jazakallahu fikoum. Naam. Jazakallahu. Il y a quelqu'un qui m'a dit en whisper, vous pouvez pas lire, moi je lis, il a dit, cette personne a dit, alhamdoulilah, allez, vous êtes guéri, mais il faudra respecter l'heure quand même. Naam. Barakallahu fi cette personne. Je disais que la femme, quand elle fait la prière, si c'est elle qui lit dans la salat, si c'est une salat à voix haute, elle lit à voix haute. Si c'est une salat à voix basse, elle lit à voix basse. Si c'est elle qui guide des sœurs derrière elle, elle dit Amin à voix haute, les sœurs derrière elle disent Amin à voix haute. La même chose. C'est comme les hommes. Il n'y a pas de différence entre les hommes et entre les femmes. Mais si la femme est derrière un homme ou là dans la mosquée, elle dit Amin à voix basse. Elle ne se fait entendre qu'elle-même. Mais si elles sont tous des femmes, elle dit Amin à voix haute. Si elle est avec son mari dit Amin, elle peut dire Amin assez. Elle n'est pas très forte. Assez. Elle lève sa voix assez pour que son Amin concorde avec le Amin de son mari et celui des anges, bien sûr. Mais si elle le dit à voix basse, derrière un homme, même si son mari, si elle le dit à voix basse, c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala. Non. Fadal, Inch'Allah. Salam alaykoum wa rahmatullah. Est-ce que l'ordre de la récitation des sourates pendant la prière est obligatoire? Car par exemple, est-ce que c'est dans la première raka'a avec Abasa et dans la deuxième raka'a, je lis quelques versets sur la Baqara Baraklaw. Je répète, est-ce que l'ordre de la récitation des sourates pendant la prière est obligatoire? Car par exemple, est-ce que je récite dans la première raka'a avec Abasa et dans la deuxième raka'a, je lis quelques versets sur la Baqara Baraklaw? Naam, ceci est permis. Tu peux lire dans la première raka'a, par exemple, Al-Fatiha et Qul Huwallahu, et dans la deuxième raka'a, Al-Fatiha et Sourate Al-Ghashiya. Ça se fait. Mais en principe, la sunna, on lit dans une première surah, ce qu'on lit dans une première surah est plus long que ce qu'on lit dans une deuxième surah. Le dalil qu'on peut lire une surah, ensuite dans la deuxième, lire marche arrière, c'est-à-dire aller plus loin, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la salat une fois, il a lu Alhamdulillah, il a terminé, ensuite il a lu Al-Baqara, il a terminé Masha'Allah, dans la même raka, ensuite il a lu Sourate Al-Nisa, Masha'Allah, il a terminé dans la même raka. Ensuite, il est revenu à Sourate Ali Imran. Et il a terminé et il s'est incliné. Ces trois grandes sourates, il les a lues, Masha'Allah, dans une seule raka. Donc, il a commencé par le Baqara. Ensuite, il a sauté Ali Imran. Il est allé à Nisa. Ensuite, il est revenu vers Ali Imran. Donc, c'est possible de lire comme vient de me dire le R. Par exemple, avec Qul Huwallahu. Ensuite, il va dans le Baqara. Mais ce qui est interdit et ce qu'on ne peut pas faire, c'est par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, dans la même surah, je ne peux pas commencer par la fin et aller au début. Par exemple, la même surah, sur le Baqara, par exemple, dans la première raka'a, j'ai terminé, Alhamdulillah, j'ai dit Amin, ensuite je lis. Dans le Baqara, je lis par exemple Amen al Rasul, c'est la fin de la Baqara. Amen al Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi, et je termine les versets et je m'incline. Et dans la deuxième sourate, je reste dans la même sourate Baqara, dans la deuxième raka'a, qu'est-ce que je vais dire du début, par exemple Alif Lam Mim dhalika al kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Tu peux pas. Pourquoi? Dans la même sourate, tu dois suivre. Tu ne peux pas commencer par la fin, ensuite aller plus haut ou là aller au début. Ça, tu ne peux pas dans la même surah. Mais si tu lis une surah en bas, et tu vas lire une autre surah en haut, c'est possible d'après le hadith que je viens de citer, qui est hadith sahih dans le Bukhari, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait dans la salat de la nuit, mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas aussi valable dans la prière obligatoire. Et il y a un hadith sahih où il est dit que Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, j'ai pas oublié, Il a lu comme ça. Il a lu sorte le Kahf dans la première raka'a, et je crois dans la deuxième, il a lu sorte Yusuf. Alors que Yusuf, elle est avant le Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Fadlan, inshallah, prochaine question. Salam alaikum. Vous parliez de deux raisons que vous n'avez pas citées pour lesquelles la sourate Touba ne commençait pas par le bismillah. Quelles sont-elles? Non. Pour la sœur ou là, le frère qui a posé cette question, je lui dis barakallahu fik. Moi, quand j'ai dit qu'il y avait deux raisons que je n'ai pas citées, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, attends, je vais voir s'ils vont être curieux pour demander quelles sont ces deux questions. Et toi, mon frère ou ma soeur, barakallahu fik, tu es assez curieux et c'est bien d'être curieux dans le din. Je suis curieux dans le din pour apprendre. Naam, c'est bien, barakallahu fik. Si tu es un frère, et barakallahu fiki, si tu es une soeur. Bismillah subhanahu wa ta'ala, qu'il t'ajoute dans la science. Naam. Les deux raisons, c'est ou bien, ou bien, ce qu'ont dit beaucoup de ulama, ils ont dit, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas lui qui a classé les sourates. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a classé les sourates. C'est pas lui qui a dit, mettez le Baqara, ensuite mettez Ali Imran, mettez Nisa, mettez comme ça. C'est pour ça que je dis que il est possible que tu lises de n'importe où. Car ce n'est pas lui, alayhi wa sallam, qui a classé les sourates. Mais lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a classé? Il a classé des versets. Naam. Lui, quand Jibril alayhi salam venait avec un verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, mettez ce verset dans surat X, surat tel surat, dans l'endroit X. Naam. Donc, conclusion, le prophète alayhi salam a classé les versets et n'a pas classé les sourates. Donc, les ulama ont dit, les sahaba ici ont dit, quand on a vu le Coran, on n'a pas trouvé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant le Tawbah, on a trouvé seulement un trait comme ça, on a dit que peut-être cette surah, c'est-à-dire surah Tawbah, fait partie de la surah qui est avant elle. Ils ont dit, donc on n'est pas sûr. C'est pas une nouvelle surah. C'est peut-être une surah qui fait partie de la surah qui est avant elle. Ils ont dit, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on ne dit pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Non. Premièrement, on ne dit pas parce que ce n'est pas écrit, bien sûr, parce que ce n'est pas écrit. Et deuxièmement, parce que on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Est-ce qu'elle fait partie? Est-ce que c'est une sourate seule ou là, c'est une sourate qui est attachée à celle qui est avant elle? Non, à celle qui est avant cette sourate. C'est-à-dire, Bidlaft, attends, je vais voir qu'est-ce qu'il y a avant sourate Touba. On parle de Touba, non. Qu'est-ce qu'il y a exactement avant sourate Touba? Attendez. Al-Anfal. Naam. Ils ont dit, je ne sais pas, peut-être que cette surah, c'est la même avec surah Al-Anfal. C'est pour ça qu'on ne va pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, surtout qu'on n'a pas trouvé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on a trouvé seulement un trait qui divise les deux surahs. Et deuxièmement, ce qu'ont dit d'autres ulama, ils ont dit, car la surah de la Tawbah, c'est une surah qui est descendue spécialement pour les munafiqins et pour leur faire des reproches et des blâmes. Hein? Donc ils ont dit, c'est de la hikma et de la sagesse qu'on ne la commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Car Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça contient de la rahma. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. On ne dit pas miséricordieux, on commence direct « A'udhu billahi min shaitan rajim, bara'atu min Allahi wa rasulim » directement. Il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tellement, Allah Ta'ala est en colère contre les munafiqins qu'on ne doit même pas commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui contient de la rahma. Il n'y a pas de rahma avec les munafiqins et les kuffars. Comme ça on dit beaucoup d'ulama. Naam. Et fadlan, inshallah, il est 1h-10. Fadlan, inshallah, c'est quoi l'autre question? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Je voudrais savoir si la position du pied droit dans la position assise est obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire cette question, Ilyes? J'ai pas compris. Ilyes, j'ai pas compris que la position du pied droit, est-ce qu'elle est obligatoire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai pas compris. Ilyes, est-ce que tu peux me faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais savoir si la position du pied droit pour la position assise est obligatoire. Taïf, je réponds d'après ce que j'ai compris. Pour ne pas perdre de temps, je réponds d'après ce que j'ai compris. Il y a l'iftirash et il y a le tawarruk. Il y a l'iftirash et il y a le tawarruk. Ce sont des sunan. Ce sont des sunan. Ce sont des choses recommandées. Jamais. Naam, naam. J'ai compris. C'est ce qu'il veut dire. Naam. Ce sont des choses recommandées. Si tu les fais, masha'Allah, ta salat est plus parfaite que celui qui ne les a fait pas. Qui ne les a pas fait. Mais si tu ne les as pas fait, ta salat est toujours valable, inshallah ta'ala. Mais celui qui les connaît, celui qui sait quand est-ce qu'on fait tawarruk et quand est-ce qu'on fait l'iftirash, il doit faire la prière comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas lui qui choisit, c'est pas toi qui choisis. C'est le prophète alayhi wa sallam qu'on doit suivre. Non. Mais on ne dit pas à quelqu'un que ta salat est nulle. On lui dit ta salat n'est pas yani, plus complète et plus parfaite que celui qui a fait la sunna. Celui qui a fait la sunna, sa salat est mieux que sa salat. Elle est plus complète et plus parfaite, Inch'Allah. Non. At-fadl, Inch'Allah. Il reste 10 minutes. At-fadl. La sœur a le point. Quelle sœur? Quelle sœur qui a le point? Non, quelle sœur? Salam alaikum. Cheikh Al-Albani dit que même si on prie derrière l'imam, doit-on dire Sami Allah limin hamidah, cet avis est-il plus chez les gens de la science, est-il obligatoire de se relever en cédant de ses mains quand on se relève pour la deuxième raka? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salam salam ala Ashraf Moussari. Cheikh Al-Albani a dit quand l'imam dit Sami Allah limin hamidah, toi tu dis Sami Allah limin hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Naam, il s'est basé sur un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'imam dit Sami Allah limin hamidah, dites comme il dit. Et dites comme il dit, ça veut dire tu dis aussi Sami Allah limin hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Donc cet avis, inshallah ta'ala, est juste. Et moi aussi, je le fais et je l'applique. Non, moi je dis comme a dit l'imam. L'imam a dit Sami Allah limin hamidah, je dis Sami Allah limin hamidah, aussi je dis Rabbana wa lakal hamd. Est-il obligatoire de se lever en s'aidant de ses mains? C'est une sunna. C'est une sunna que tu te relèves sur tes mains. Tu tapes sur tes mains. Tu t'appuies. Tu joins tes mains en poing. En poing. C'est comme si on allait donner un coup de poing à quelqu'un. Ils ont dit c'est comme la femme. La femme, quand elle, autrefois, elle faisait le pain. Elle faisait le pain. Elle prenait ses deux mains comme ça, les deux poings. Et elle. Et elle faisait la pâte avec les deux poings, c'est pas avec les mains ouvertes, avec les deux poings comme ça. C'est ça la sunna. Avant que tu te lèves, que tu sois homme ou que tu sois femme, avant de te relever, tu mets les deux poings sur le sol et tu t'appuies sur les deux poings et tu te relèves bi'idhnillah ta'ala, comme faisait le prophète alayhi salam, et on n'est pas arrivé à là, inshallah ta'ala, ça viendra avec beaucoup de détails. Et tfaddal inshallah. نعم طيب هل في أي question لا يقع je remarque الحمد لله aujourd'hui. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je n'ai pas. Comment qu'on dit? Je n'ai pas déconnecté, alhamdoulilah. Non. Peut-on faire toute la salat avec la source Ikhlas Barakallahu Fik? Peut-on faire toute la salat avec la sourate Ikhlas, barakallahu fik. Il est permis de faire deux rak'at avec la même sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu une fois dans la première rak'a. Alhamdulillah, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Et dans la deuxième rak'a, Alhamdulillah, idha zulzilatil ardu zilzalaha. Donc, je préfère qu'on s'arrête ou s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait deux rak'a avec la même surah. Mais de là à dire 3 rak'a, 4 rak'a avec la même surah, je ne sais pas. Mais si tu fais 2 rak'a, c'est possible. Le prophète Al-Hassan a fait cette chose. Quoique, 3 rak'a, 4, c'est pas interdit, inshallah ta'ala, c'est pas interdit. Mais de préférence, on arrête où s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. تفضل ان شاء الله بروشان سؤال درس سامي ان شاء الله سامي ان شاء الله السلام عليكم puis je récite la Fatiha deux fois, la première fois car c'est obligatoire et la deuxième fois comme deuxième sourate, c'est-à-dire mohrab. Ça ne se fait pas, naam, ça ne se fait pas, ça s'est jamais fait, ça rentre dans la bid'ah, naam. Réciter le Fatiha, ensuite réciter le Fatiha comme deuxième sourate, ça ne se fait pas. Si quelqu'un ne connaît rien, qu'il lise seulement le Fatiha. Comme a dit le prophète alayhi sallam, quand quelqu'un lui a dit, c'est-à-dire, lis Umm al-Kitab, lis le Fatiha, ou Allah al-Afiya, et demande Allah ta'ala l'Afiya. Naam, on peut s'arrêter seulement à Fatiha et on s'incline. Donc, si tu ne connais pas une autre surah, ne relis pas le Fatiha. Tu lis seulement le Fatiha et tu t'inclines. Et si tu connais le début d'une autre surah, tu lis au moins un verset, un ou deux versets. Et tu t'inclines. Non, mais pas deux fois le Fatiha. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tafaddal, Cheikh. Non. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saut, ya jama'a. Fais saut. Naam. Je disais que, il était ça se faisait pas de lire dans la même rak'at deux fois sourate al-Fatiha. Celui qui connaît une autre surah, il lit une deuxième surah. Celui qui connaît pas une deuxième surah, il lit un peu de la deuxième surah. Celui qui ne connaît que le Fatiha, il s'arrête à le Fatiha. Il dit Fatiha et il fait l'inclinaison. Non, ce n'est pas grave, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, yani, fais la Fatiha et demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Non. Il est 23h, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On se reverra, inshallah, vendredi. Vendredi, inshallah, si je vais bien et je suis libre, inshallah ta'ala, on fera 2h. Seulement questions-réponses pour les questions à mes livres, comme ça, qui n'ont pas de rapport avec le cours. Inch'Allah, vendredi, si je suis bien, je suis libre. Après les repères de la Sunna, on fera, Inch'Allah, 2h, seulement questions-réponses pour ceux qui n'ont pas posé les questions. Je dirai encore une fois aux gens qui m'ont enregistré, Inch'Allah ta'ala, que c'est une responsabilité, je leur dis, pour que la responsabilité tombe sur eux et non pas sur moi. que lorsque j'ai dit lorsque j'ai dit Zilzala, qu'elle valait un quart du Coran, je voulais dire qu'il y aura le Kafirun. Donc celui qui a la cassette, il la corrige, il ne la laisse pas comme ça, il va la donner aux gens et ils vont apprendre faux. Moi, ce qui me fait peur, c'est seulement cela, que quelqu'un apprenne quelque chose de faux, et qu'il dise c'est moi qui l'ai dit, et ensuite il va apprendre quelque chose de faux. C'est pas ce qui me gêne, mais qu'ils disent qu'il s'est trompé, hein, ça me fait méchonner quoi. L'essentiel, c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala que je n'ai pas appris aux gens quelque chose de faux, bi'idhnillah ta'ala. On enregistre aussi votre correction. Jazakallahu khair. Naam. Ma correction, vous pouvez la mettre à la fin du DAF. Jazakallahu khair. Ma correction, vous pouvez la mettre à la fin du DAF. Avant de terminer aussi, je vous demande, inshallah ta'ala, de quitter la salle. Je vous demande, inshallah ta'ala, de quitter la salle parce que je vais fermer. C'est mieux que de vous fermer comme ça sur votre visage. Vous quittez la salle, le temps que moi je cherche. Moi, vous savez maintenant quand maintenant je viens de rentrer, je ne trouve pas, ce qui était affiché auparavant. Donc, Ta'amallahu la Ilyas ou la Bint Hashmi ou la, vous me donnez les noms qui ont été bouncés. Donnez-moi les noms qui étaient bouncés, affichez-les-moi, comme ça je peux les prendre. Et les mettre, dans le ban, afin de les bannir pour qu'ils rentrent plus jamais dans la salle. Donnez-moi les noms qui ont été bouncés. Je ne les ai pas maintenant sur la liste, car la fiche hadith, c'est une nouvelle page. Naam, je vous attends, Inch'Allah. Les autres, Inch'Allah Ta'ala, quittez la salle. Et Amanillah Azza wa Jal. Je vous verrai, Inch'Allah, Yom Jumu'ah. Subhanakallahu bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.